Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Eh bien écoute, j'ai appuyé sur « Enregistrer ». T'as une belle voix, je t'entends bien dans le retour, donc je pense que ça devrait le faire. Comment ça va Fred ?
Ça va impeccable, et toi ?
Bah écoute, je suis en pleine forme, je suis très très heureux d'être là. J'ai écouté pas mal d'interviews de toi là ces derniers jours. Et...
Tu veux dire que t'as bossé ?
J'ai bossé.
C'est bizarre de voir un mec qui bosse en face de moi comme ça.
Je vais beaucoup bluffer, on va parler de bluff aussi. mais on va beaucoup bluffer aussi, mais j'ai bossé. Parce que t'as eu une carrière tellement longue. T'as eu un après-carrière aussi sur lequel on pourra beaucoup parler. J'ai vu aussi que t'as essayé plein de trucs. Du consulting pour les marques sportives, un peu comme tous, tu vois, la restauration, plein de business, un équipementier, de l'événementiel et tout. Donc j'avais envie, tu vois, de me plonger un peu dans ton univers, tu vois. Je me suis dit, si j'arrive, Les mains dans les poches, ça le fait pas, quoi, tu vois.
Bah, c'est, franchement, merci beaucoup, ça me fait dire. Non, non, franchement, c'est cool. Ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment parler, quoi. C'est cool.
Ouais, 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 carrément. Après, moi, je suis pas du tout un expert du basket. Je sais qu'on t'appelle aussi souvent pour avoir ta casquette, ton œil d'expert, ta casquette d'expert. Moi, je suis un fan de basket. Je fais partie des gens, enfin, je suis un fan. Je suis un fan pour les jeux et pour quand c'est diffusé sur France TV. Je suis un fan
non,
des
non,
bleus.
Non, non, ça, tu peux pas me dire ça. Non, 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 on va enlever ce que tu viens de dire. Tu peux pas dire quand ça passe sur France TV, ça te plaît. C'est pas possible. Tu vois, par exemple, pour les jeux, j'espère sincèrement que t'as réécouté Eurosport. Parce que les commentaires étaient un peu plus actuels que ce qu'il y a pu y avoir sur France Télévisions. Mais bon, peu importe. La question n'est pas là.
Eh ben, écoute, j'ai vu du coup des replays parce que t'étais là et c'était ta voix et j'avais envie d'écouter un peu ton boulot, quoi. Mais en tout cas, ouais, moi je viens pas du basket, donc on peut parler de plein d'autres choses. Et comme je te disais, il y a une tradition sur ce podcast, c'est de commencer par l'enfance, commencer par savoir qui t'étais quand t'étais plus jeune. Et la question traditionnelle, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
En fait, je le raconte assez peu finalement, parce que j'ai un peu honte, mais en même temps, ça me fait rire. Et donc, je le raconte avec les gens avec qui je m'entends bien. En fait, ma sœur a 11 ans plus que moi, et c'est une ancienne basketteuse, d'accord. Elle a été en équipe de France, toute ma famille, mon papa a joué en première division, ma sœur a été en équipe de France de basket, et c'était un peu mon idole. Imagine, moi, je commence le basket, elle a 11 ans plus que moi, donc à 18 ans, j'en ai 7, et elle commence à faire des préparations pour l'équipe de France, etc. Et là, je me retrouve à me dire, allez, je vais essayer de m'entraîner avec elle, tu vois. Donc, je la suis, je commence à la suivre, on fait un tour de piste, enfin, de terrain, pardon. Et donc, je suis un peu cramé, déjà, concrètement. Et puis, d'un seul coup, elle me dit, allez, Fred, on change, et cette fois, on court en arrière. Je dis, bah, on court en arrière, simple. Poum, je cours 3 pas, je tombe, je me casse le poignet. Ça me résume exactement, tu vois, le mec gaffeur incroyable qui a de la bonne volonté, tu vois, sur le principe, mais qui au final est pas très doué pour le sport, ouais. Qui est un peu gaffeur, qui il arrive plein de petites merdes comme ça, et voilà. Mais moi ça me fait rire. Ma sœur en pleure ce jour-là, bien sûr. T'imagines son petit frère cassé à cause d'elle, etc. En plus, après, on partait en vacances avec mes parents, donc on est un peu italien d'origine, donc on est en Italie, donc galère avec le plâtre. Donc c'est pour ça que je m'en souviens très bien, parce que j'ai galéré tout l'été avec le plâtre, mon père qui mettait un sac poubelle dessus. Au bout d'un moment, le sac poubelle a troué, donc j'étais obligé d'aller à l'hôpital en Italie pour me refaire un plâtre. Ils m'ont coupé à moitié un petit peu la main, tu sais, pour m'enlever le premier plâtre. Enfin, voilà, une vraie histoire sur ça. Mais c'est surtout, je te dis, ça me résume complètement. C'est-à-dire que j'étais pas vraiment particulièrement fait pour le basket au départ, ni pour le sport en général.
Ok. Okay. Pourquoi tu dis que t'étais pas fait pour ça?
Mais parce que moi j'étais un gros glandeur. Alors je sais pas si on a le droit de dire ça. Enfin,
on a le droit de dire. Ouais.
Donc j'étais un gros glandeur. Mon rêve à cette époque-là, mes parents me le répètent tout le temps, c'est tu voulais être testeur de jeux vidéo ou de matelas. Donc j'imagine quand même le mec, l'ambition était pas ouf en termes de sport. Et c'est vrai que ça m'a longtemps suivi. J'avais des facilités à l'école, tu vois, c'était assez simple pour moi.
Okay.
Donc je forçais pas. Ouais. En sport, j'étais le plus grand, j'étais nul. Mais comme j'étais très grand et à l'époque on jouait en baby basket, je faisais que des dunks, donc je forçais pas. Tu vois, ouais. Ma vie au départ, c'était vraiment, il y avait rien à forcer. Et ça m'a pas incité au départ à être vraiment super dur, quoi.
Ok. Et même le fait d'avoir toute une famille qui a joué au basket, on va dire au haut niveau en plus, ou plus ou moins au haut niveau, est-ce que ça t'a quand même, je sais pas, donné un exemple ou donné envie de faire quelque chose?
Alors moi je voulais pas faire du haut niveau, mais en fait je voulais faire des 1 contre 1 contre eux et les battre. Sauf que ça a mis un temps énorme pour que je batte mon père. Ouais. Et ma sœur, j'avais déjà signé en pro à Limoges, elle me battait encore. Donc tu vois, ma vie était difficile. Quand je suis arrivé à l'école à Saint-Pierre-Chanel, ce qui est une école privée de Thionville à côté de chez moi, c'était la meilleure. Donc tout le monde me comparait à ma sœur. Quand je suis arrivé au basket, tout le monde me comparait à ma sœur. Je faisais des 1 contre 1, je venais de signer un contrat pro avec Limoges, ma sœur faisait un 1 contre 1, elle me défonçait. Bah t'imagines, c'est pas simple pour au niveau de la confiance au départ quand même.
Moi je peux imaginer. Et est-ce que tu penses que le fait d'être super grand comme ça, je sais pas quelle taille tu faisais et comment t'as été ta courbe de croissance.
La seule taille que je peux te donner, c'est à 15 ans, parce que je suis arrivé à l'INSEP et on m'a mesuré, je faisais 2m7. C'est la seule truc dont je me souviens.
Parce que moi j'avais un de mes meilleurs amis qui était très grand aussi. Bon, il est arrivé, je pense, à 12 ans, il devait faire 1m85. Et il s'est arrêté à 1m95, 1m97. Mais pareil, j'ai un souvenir qu'il était très gauche, tu vois, et qu'il faisait des gaffes tout le temps avec son corps. Des fois, il faisait des trucs qu'il comprenait même pas lui-même, tu vois. Donc,
on est forcément plus gauche. On a un corps qu'on a du mal à appréhender. Déjà, quand on est jeune et quand on est en période d'adolescence, c'est compliqué.
Ouais.
Sauf que t'imagines, t'as 30 cm de plus que les autres, tu bouges un petit peu, tu connes les gars, enfin, tu vois, tu te sens pas bien parce que t'as l'impression que tu donnes des coups à chaque fois, tu te sens pas bien dans ton corps parce que t'as l'impression de pas le maîtriser. Donc j'avoue que oui, il y a des périodes compliquées par rapport à la taille quand t'es petit.
Ouais, quand t'es jeune.
Et,
ouais,
c'est juste pour te dire, donc j'étais dans un collège privé.
Ouais.
Et le collège privé me dit de passer ma communion, enfin tous les trucs, tu vois. Et donc je passe la communion, je vais pour passer la communion, sauf qu'il y a pas d'aube à ma taille. Ouais. C'est le prêtre qui m'a prêté l'aube. Donc, putain. Donc c'était l'aube du prêtre. Et pour la blague, donc on est tous le jour de la messe, etc. On est tous devant. Et là, il m'interpelle devant tout le monde, alors que moi, timide comme pas deux, rouge, etc. Il m'interpelle. Il dit, il faut descendre du prie-dieu ou du marche-dieu. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. C'est cette petite marche où tu t'agenouilles pour prier. Et le mec, il m'interpelle comme ça. Je dis, mais je suis pas dessus. Et en fait, ah pardon. Donc en fait, tout le monde m'a maté alors que j'étais même pas sur la marche. Et voilà, j'étais pas bien. Donc,
okay.
Donc tu vois, le mec timide, quoi.
Ouais, je vois. Aujourd'hui, tu te considères encore comme timide aujourd'hui?
Les gens me croient pas quand je dis ça, mais oui. En fait, ma protection de la timidité, c'est de parler beaucoup. Plus ouais. Je parle, plus j'ai l'impression de me protéger, et les gens m'attaquent moins parce qu'ils se disent, oh, ce gars-là, il a un peu de répartie, c'est un peu dangereux de l'attaquer. Donc c'est un peu ma protection, mais oui, je suis hyper timide quand je connais pas. Moi, je me mets dans mon coin. Quand c'est pas mon milieu. Et on en parlera peut-être un peu plus tard. Hier, j'avais une séance dans un milieu qui n'était pas le mien. Bah, je pense que j'étais le plus timide de tous, quoi.
Ouais, ok. Et c'est, mais je te comprends un peu cette espèce de réflexe d'autodéfense de défendre un peu par l'attaque entre guillemets, de parler, de faire semblant en fait, de construire un peu un mur sur la timidité.
J'ai fréquenté Jean-Marc Crédit, toi tu connais pas, ouais. Ce qu'on appelait le roadman français à l'époque, et moi j'étais hyper timide, donc tu vois. Et lui en fait, il chambrait tout le temps. Okay. Et en fait, on était tout le temps dans la même chambre parce qu'on nous a conseillé d'être ensemble justement parce que c'était le feu et la glace un peu, tu vois. Moi, le calmais un petit peu, lui, il m'excitait un petit peu, si tu passes l'expression.
C'est où, c'est à l'INSEP?
C'était en équipe de France. Toutes les sessions d'équipe de France, on était dans la chambre ensemble. Donc, être dans la chambre avec un mec pendant 3 ou 4 années de suite, pendant 2 mois, bah forcément, ça crée des liens parce que pendant 2 mois, vraiment, tu vis en coloc, quoi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce qu'il était chambreur et moi, je suis devenu hyper chambreur et un peu moins timide, en tous les cas, plus volubile grâce à lui. Ouais.
Ok, t'as eu d'autres mentors un peu comme ça sur la timidité ou la confiance en soi?
Bah la confiance en soi, après ça s'est construit quand j'étais pro surtout. Sur la timidité, c'était Jean-Marc Crédit. Jean-Marc Crédit, je te dis, le mec le moins timide du monde, il arrive. En fait, c'est ce genre de mec, quand il arrive dans une pièce, tout le monde le regarde.
Ouais.
Parce qu'il a du charisme, parce qu'il est marrant, parce que il tchatche beaucoup. Tu vois, c'est un Africain dans le bon sens du terme. Tu vois, un peu, vraiment, tu ne peux pas t'empêcher de le regarder parce qu'il dégage quelque chose, quoi.
Ok. Bah écoute, je le connais pas du tout. J'ai renseigné.
C'est le Dennis Rodman français. Le mec se teignait les cheveux dans toutes les couleurs.
C'est vrai.
Le mec il faisait n'importe quoi, mais c'était génial. En fait, tu vois, il y avait un peu d'activité dans le basket français.
Ouais. Il fallait un petit peu de.
Un petit peu, ouais.
Un petit peu de couleur.
Il pouvait pas y avoir que des mecs lisses comme moi. À un moment.
Ok. Et t'as testé d'autres sports plus jeune ou que basket?
En fait, j'ai voulu commencer par le basket assez tôt parce que encore une fois, je voulais suivre la voie de ma sœur et de mon père.
Ouais.
Et on m'a mis à la natation.
Okay.
Et en fait, parce que on m'a interdit de jouer au basket, on m'a dit que c'était trop tôt. Et donc, on m'a mis à la natation, donc mes parents m'ont dit, oh, comme ça, il saura nager, au moins, c'est cool. Sauf que moi, je me faisais chier comme c'est pas permis, en fait. honnêtement. Imagine, moi, le seul truc qui puisse me faire courir, c'est le ballon. T'es là, t'as pas de ballon, t'es dans l'eau tout seul, tu peux pas parler, donc les trucs que je peux pas supporter. Et on dit, il faut courir pendant, je sais pas combien de temps, et pour t'entraîner, tu bouges pas de l'eau. Ouais, c'était trop chiant. J'ai fait 1 an avec des résultats plutôt corrects d'ailleurs, parce que j'étais grand, donc tu vois, ça a aidé.
Bien sûr.
Ce qui m'a permis d'avoir des épaules. Tu vois, j'avais zéro muscle quand j'étais petit, mais j'avais quelques épaules, et ça m'a aidé un petit peu au basket quand même.
Un peu de cardio aussi, j'imagine.
Un peu de cardio aussi, ouais. mais pas le même. C'est vraiment pas le même effort que le basket. Je suis arrivé au basket, j'étais... j'arrive à l'INTA, au Krebs de Nancy, d'accord?
Ouais.
Et Philippe Horry, donc le CTR de l'époque, le conseiller technique régional, me dit, Fred, fais un tour de piste. Mais c'est loin déjà, tu sais, un peu comme Orelsan, comment c'est loin. Et donc je fais le tour, je suis arrivé au bout de 5 minutes déjà pour faire un tour de piste, cramé, j'en peux plus, moi j'arrête, je m'en vais, c'est trop dur votre truc. Moi je voulais jouer au basket, je voulais pas courir autour d'une piste. Et j'avoue que le sport, tu vois, encore une fois, j'étais pas particulièrement fait pour ça, quoi.
Ouais. Est-ce que tu penses que t'as accroché avec le basket parce que t'étais bon et grand, tu vois? Si t'avais été petit, tu vois, et que ça aurait été beaucoup plus dur, tu penses que t'aurais eu peut-être la même envie ou le même parcours?
Alors, il y a le fait que l'accroche familiale.
J'ai l'impression que, tu vois, toi, c'est, vu que c'était facile et que c'était un peu naturel, tu vois, de mettre des dunks déjà.
Alors c'était vraiment qu'une période, cette période où justement, où le baby basket, le panier, il est grand, il est haut, je sais pas, il a 1m50, un truc comme ça, donc je dunkais facilement. Mais après, on est passé sur d'autres paniers, c'était beaucoup plus compliqué.
Bien sûr.
Mais il y avait l'accroche et la tâche familiale. De un, Mais peut-être que j'aurais renoncé plus vite. Oui, si vraiment ça avait été ultra dur, si j'avais fait 1m50, je pense que au bout de me prendre des bâches, de ne pas être bien, tu vois, je pense que j'aurais arrêté effectivement. Parce qu'encore une fois, j'avais pas une appétence particulière. Je voulais plus faire comme ma famille que moi, un amour inconditionné pour le basket.
Ok. Mais tu sais, je suis un peu étonné par ton histoire, parce que tu vois, quand on regarde un peu Wikipédia et compagnie, tu vois, on voit effectivement que tu fais les jalons, quoi. Le Krebs, l'INSEP, après tu pars tu signes pro, quoi, à Limoges, c'est ça?
C'est ça, c'est ça.
Dans l'ordre. Et tu vois, et je me dis, tu coches un peu toutes les cases. Et tu vois, là, j'ai l'impression que quand tu me dis, ouais, j'étais un peu un glandeur, j'avais pas envie de foutre grand chose, tu vois. Ça m'étonne, tu vois. Je me dis, alors que t'as le parcours académique.
Mais parfait, en fait, je pense que dans le parcours académique, c'est là que tu peux être le plus glandeur, en fait. Ouais. Concrètement, si quand tu sautes les étapes, quand tu dois en chier un petit peu plus que les autres pour y arriver, par définition, t'en chies plus, tu es plus dur, etc. Sauf que moi, je suis passé de mon petit club au Crêpes de Nancy parce qu'on a vu un potentiel. Donc j'ai fait ce qu'on me demandait. En fait, concrètement, je faisais pas plus que ce qu'on me demandait. Donc Oui. Je faisais ce qu'il fallait, quoi. Tu vois, j'étais un peu au fond de la classe. Je faisais ce qu'il fallait. À INSEP, je faisais ce qu'il fallait. J'en faisais pas plus non plus. Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'à un moment, il fallait quand même que je donne un petit coup de fouet, parce que voilà, je stagnais trop et il fallait que je travaille un peu plus. Ouais, en fait, quand je me suis rendu compte que il fallait que je sois meilleur que les autres, en fait, je sais pas pourquoi, un jour, je me suis dit, putain, j'en ai marre de me faire de kin dessus. J'en ai marre de perdre tout le temps. Enfin, tu vois, à un moment, t'as envie de gagner, quoi. Et en fait, c'est plus de la fierté, j'avais pas envie d'être le boulet. Tu sais, le mec qu'on sélectionne en dernier dans l'équipe. Je voulais pas être celui-là. Ouais, donc à un moment, je me dis, attends, il va falloir que je fasse quelque chose, parce que concrètement, j'étais choisi en dernier parce que je le méritais. Je méritais pas plus. Donc à un moment, je me dis, tout le monde pense que j'ai un potentiel. Je suis toujours choisi en dernier et j'ai un ego surdimensionné par rapport à mon niveau de jeu. Donc à un moment, il faut faire un effort, quoi, tu vois.
Et c'est pas trop dur pour un jeune de 14, 15 ans, 16 ans de tout quitter de quitter ses parents et son écosystème familial pour le Krebs, pour l'INSEP, c'est pas compliqué. C'était un peu timide et tout.
Moi j'étais un fils à papa et maman.
Ouais.
Donc quand je suis parti, c'était compliqué. Okay. Encore maintenant, ma mère qui a 79 ans, mon père qui en a 82, il m'appelle mon petit cœur adoré. Donc imagine un petit peu le petit cœur adoré qui se retrouve avec des mecs morts de faim qui ont envie de réussir au basket. Au début, il y avait un vrai décalage. J'ai souffert un petit peu. Ma première année de Krebs, ça allait, parce que avec le CTR, on avait un accord, je rentrais le mercredi, donc ça me permettait de couper la semaine quand même.
Ouais.
Mais ma première année à l'INSEP, ça a été un calvaire. Enfin, les mecs me harcelaient presque limite, tu vois, parce que j'étais une chiffre molle, quoi.
Ok.
Mais ça m'a quelque part maintenant je les remercie, parce que plus personne me marchera sur les pieds. Sauf que à cette époque-là, je n'avais pas cette force de caractère et ça a été une année un peu galère.
Ouais. Ok. Je peux comprendre. Ouais. J'ai cru comprendre que t'as eu une autre galère un peu dans ton début de carrière, c'est les agents au début. Est-ce que, alors tu vois, les auditeurs d'Extraterriens, ils sont, c'est pas tous des connaisseurs du basket.
Moi non plus. Et ils se rassurent, moi non plus, je sais pas.
comment ça fonctionne justement ce système d'agents, de draft avec les États-Unis? Il y a l'espèce de double système entre l'Europe et les États-Unis, tu vois. Comment ça se dessine si on se met un peu dans ta peau, où toi t'es à l'INSEP, qu'est-ce qui se passe, tu vois, à ce moment-là? C'est quoi les opportunités qui comment tu te fais accompagner?
Alors ça va même plus loin que ça. Quand je vais au Krebs de Nancy, donc j'ai 14 ans,
vas-y,
j'ai le STUC de Nancy qui appelle mon papa en disant, on voudrait votre fils.
Ok.
D'accord. Et mon père, il dit non, il est trop jeune, je veux pas qu'il aille, qu'il aille jouer en tant que semi-pro. Hein. J'aurais pas été pro à 14 ans, évidemment. Mais il dit, je veux pas, pour l'instant, c'est moi qui gère sa façon, sa carrière. Même si j'avais pas de carrière, mais en tout cas, qui gère sa trajectoire. Et je veux pas qu'il se passe ce genre de truc. Les mecs de Nancy lui disent, vous perdez beaucoup d'argent, monsieur Weiss. Il dit, non, et là, mon père, super sympathique et pas colérique du tout, comme moi, il leur en a mis une en disant, moi je m'occupe de mon fils, j'ai pas besoin de votre argent, vous le gardez, j'en ai rien à foutre, moi l'argent c'est pas pour ça que j'ai fait mon fils, je veux qu'il soit heureux, et chez vous il sera pas heureux, donc non. Donc voilà comment ça se passe au départ. Et finalement je fais mon cursus à l'INSEP, avant c'était quand même beaucoup plus protégé que maintenant. En général on faisait 3 ans, tu vois, on faisait vraiment le cursus de 15 ans à 18 ans, on passait notre bac et après on partait, même s'il y avait des exceptions. La logique voulait qu'on fasse les 3 ans, donc je fais mes 3 ans. Donc pendant les 3 ans je suis pas embêté, mais à la fin de ma 3e année je commence à avoir des sollicitations, et là mon père dit, Fred, je suis désolé, moi je sais pas gérer ça, je peux pas t'aider, quoi, c'est pas mon monde, je n'y connais rien, je connais le basket, oui, mais je peux pas t'aider quoi. Et donc là, il y a des personnes qui sont qu'on appelle des agents qui t'appellent et qui disent voilà, moi aussi ça m'intéresse, t'es sollicité par des clubs, moi je suis un intermédiaire. Est-ce que ça t'intéresse qu'on travaille ensemble? Donc okay. Là, tu rencontres plusieurs personnes et tu choisis celui qui te paraît plus cohérent.
Et quel est leur intérêt à eux? C'est de signer le meilleur contrat pour toi?
C'est... En fait, leur intérêt, c'est qu'ils prennent un pourcentage sur ce que tu gagnes. Donc, en gros, tu gagnes 100. En général, ils prennent soit 5, soit 10 dessus.
Ok.
Donc, leur intérêt, c'est plus le contrat est gros, plus ils gagnent d'argent. Okay. Plus ils gagnent d'argent, plus ils sont contents.
Okay.
Et moi, j'ai eu l'agent de Limoges, donc il vient me voir à l'INSEP. Donc déjà Limoges, moi ça me faisait rêver, Limoges 93, champion d'Europe, etc. Il vient avec une Porsche Carrera 4. D'un seul coup, je le regarde un peu plus attentivement, tu vois, je me dis, ouah, quand même, c'est chaud. J'avais jamais vu ce genre de voiture, tu vois, mon père avait une bonne voiture, mais pas une Porsche Carrera 4. Et donc le mec me fait un discours en me disant que pour lui, la meilleure option, c'est Limoges. Moi, Limoges, c'était mon rêve, concrètement, encore une fois, après 93. Le mec, il me dit, bah je vais gérer tes intérêts. Il me dit, combien tu veux? Je veux rien, moi. Je veux savoir, toi, ce que, enfin, vous, moi, j'ai toujours voué, d'ailleurs, vous, ce que vous pensez que je vaux, quoi. Moi, je veux pas. Et là, il me donne un chiffre. Et le chiffre, c'était plus que ce que mes deux parents réunis gagnaient alors que j'avais 18 ans. Mmh. Et je me dis, pour l'année. Tu vois? Je me dis, t'es pas sérieux, là. Et voilà. Et de fil en aiguille, j'ai eu cet agent pendant plusieurs années qui m'a permis de gagner des titres, gagner de l'argent, de m'affirmer aussi en tant que de joueur en France. Et après, tu parlais de draft NBA. Donc, quand tu as 22 ans, tu es automatiquement éligible à ce qu'on appelle la draft. En fait, les clubs NBA ont un ranking. On va appeler ça un ranking qui leur permet d'avoir un choix de draft. Donc, par exemple, Boston qui aurait le choix numéro 1. Ouais. Donc, ça veut dire que dans le monde, toutes les personnes de 22 ans et les personnes qui se sont déclarées. Donc, quand t'as moins de 22 ans, tu peux te déclarer avant. D'accord? Okay. C'est-à-dire que tu te dis, je suis éligible. Mais dans ce cas-là, c'est compliqué. Si t'es pas choisi, bah, tu peux pas te représenter, par contre.
Ah, ouais, bien sûr.
Mais à 22 ans, donc, t'es automatiquement éligible. Et donc, Boston, par exemple, je dis Boston ou New York, ou peu importe, a le premier choix. Et donc, c'est le meilleur joueur de la planète
qu'ils
ont le droit de choisir. Mais à leur sens. Enfin, ça veut rien dire, concrètement, le meilleur joueur de la planète. Parce que.
Ouais, ce ranking, il sort d'où?
En fait, c'est compliqué par rapport au nombre de victoires qu'ils ont. Ensuite, il y a un tirage au sort à l'intérieur pour avoir ce qu'on appelle lottery pick.
Okay,
lottery pick, c'est les 14 premiers choix.
Ouais,
enfin, c'est,
ouais,
okay. C'est assez complexe, mais en gros, c'est pour tenter que ça soit pas toujours les meilleurs qui soient meilleurs et que les plus mauvais soient les plus mauvais.
Ouais, bien sûr, ouais,
donc t'as plus de
ligue fermée,
t'as plus de probabilité quand t'as été mauvais d'avoir le meilleur tour de draft.
Ouais, ouais, bien sûr.
Mais c'est juste des probabilités. C'est pas une certitude. Il y a certaines équipes qui ont bien fini, pardon, et qui avaient des tours de draft. Oh, enfin, c'est de la chance aussi.
Ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, comment est-ce que tu te retrouves dedans, toi? Tu dois t'inscrire quelque part?
Bah non, j'ai 22 ans. Moi, j'ai 22 ans. Donc, je suis inscrit automatiquement. Et je suis choisi numéro 15. Donc, pas lottery pick, mais juste le choix après, en numéro 15, par New York. Et là, mon agent, j'étais à Limoges, il va en prison.
Okay.
Il va en prison parce qu'il est considéré comme dirigeant de fait.
Okay.
C'est-à-dire qu'en gros, il est considéré que c'est lui qui décide dans le club et qu'en même temps, il est agent. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'on croit, en tous les cas, je sais pas si ça a été jugé ou pas, donc je m'aventurerai pas sur le fait que ce soit vrai ou pas, mais en gros, d'un côté, il dit combien tu veux et de l'autre, il change de place lui-même en disant, bah, je veux tant. Enfin, tu vois,
okay,
c'est ce qu'on lui reproche. Donc, en gros, bah, il va en prison, donc je me retrouve un peu esselé et j'ai un agent américain parce que, En Amérique, il te faut un agent agréé NBA.
Okay.
Donc, en gros, mon agent qui était bon pour l'Europe et partout dans le monde quasiment, bah, était pas bon ou pas agréé, en tous les cas, aux États-Unis. Donc, il avait un pendant aux États-Unis. Donc, lui, il va en prison. Il me reste mon pendant américain. Et il m'appelle un jour, il me dit...
Sachant que lui, ça l'intéresse pas de te faire signer encore à Limoges ou dans un autre club européen. Lui,
l'agent américain, c'est juste te ramener aux États-Unis, bien sûr, parce que lui, il prend de l'argent que si tu vas aux États-Unis.
Ouais.
Tu vois. Donc, donc lui, ça l'intéresse. Sauf qu'un jour, j'avais pas beaucoup de contact avec lui parce que c'était un pendant, c'était le bras droit entre guillemets de mon agent français.
Ouais.
Et donc un jour il m'appelle et il me dit Fred, my wife passed away. Sauf que moi je savais pas ce que ça voulait dire passed away. J'avais jamais entendu, tu vois, je parle anglais correctement pardon. Sauf qu'il y a des mots comme ça que tu utilises jamais. Passed away, bah, moi j'avais die, j'avais entendu passed away jamais. Et là il me dit my wife passed away. Et donc je lui dis ouais, t'inquiète tranquille, tu me rappelles quand tu veux, tu vois. Et donc je pense que le mec l'a pas super bien pris. Donc il m'a plus jamais rappelé. Alors est-ce qu'il l'a pas bien pris Je peux pas te dire, hein, concrètement. Mais est-ce qu'il l'a pas bien pris et il m'a plus rappelé, ou le mec était tellement au fond du seau que il m'a pas rappelé. Donc je saurais jamais. Mais en tous les cas, le résultat, c'est que j'avais plus d'interlocuteur, je savais plus ce que je devais faire, j'avais plus d'agent, parce que concrètement, avec ton agent, tu construis ta carrière aussi. Tu sais où tu veux aller, quand tu veux y aller, pourquoi tu veux y aller. J'avais plus personne. C'est un peu comme tu perdais ta boussole à Koh-Lanta, toi. Tu vois, c'est chaud, quoi.
Ouais, ok, je vois.
Donc, voilà, je me retrouve un peu. Ça a été un peu l'embrouille. Donc finalement, mon agent sort de prison, sauf qu'il avait plus de contact aux États-Unis. Donc il me place en Europe, puisqu'il m'allait très bien. Moi, je préfère le basket européen.
T'as pas joué un peu aux États-Unis, vite fait ?
J'ai fait la Summer League.
Okay.
J'ai fait la ligue d'été avec eux, qui s'est moyennement passé parce que je sortais d'une opération du dos en plus.
Ouais.
Donc c'était un peu compliqué. Mais oui, j'ai fait la Summer League avec eux.
Ok. Ok.
Et juste pour la petite histoire, pour te dire à quel point je suis le gaffeur et qu'il n'y a pas de chance, etc. Les mecs me payent, bien sûr, la first class pour aller là-bas. Normal. Donc j'arrive, je suis un peu la Mr. Bean, je monte mon ticket à tout le monde en faisant le malin, tu vois. Je m'assois, hein, le vol se passe super bien, on m'apporte du thé, du champagne, enfin je bois pas d'alcool, mais enfin tout ce que je veux, quoi, concrètement. On arrive là-bas, j'attends, mes bagages descendent jamais. J'ai pas eu mes bagages pendant les 15 jours où j'étais aux États-Unis. Donc c'est-à-dire que j'avais pas un slip. Donc t'imagines, tu vas faire un truc qui est hyper important quand même pour toi, une Summer League, c'est important pour se montrer et tout ça, et moi j'avais rien. Pas une affaire. Ouais, c'est chaud. Franchement, je te jure, c'est chaud.
T'as dû tout racheter.
Et en fait, j'avais même pas le temps puisqu'on s'entraînait tout le temps. Donc j'avais même pas le temps d'aller acheter. Donc les mecs m'ont prêté des trucs. Ils m'ont donné des... En fait, j'étais tout le temps en cycliste, là, tu sais, les cyclistes courts et en short. Et le reste, j'étais à poil dans ma chambre. J'avais rien. Donc, tu vois, je t'ai dit que j'étais un peu un mec avec un peu pas de chance et un peu gaffeur.
Ah bah ça, c'est effectivement...
Et donc, on repart. Donc, je me tape 15 jours là-bas.
Ouais.
On repart. Et ben, juste le jour où je repars, en bas de mon hôtel, mes sacs.
Ils arrivent. Ah, des fois, il en faut des histoires comme ça. Hein.
Ouais,
On pourrait pas l'inventer.
Ah non, je peux pas l'inventer, celle-là.
Et ça t'a pas donné envie de... faire une carrière là-bas, tu vois, après coup, ça donne l'avant-goût, tu vois, je veux dire, un jeune de 22 ans, c'est quand même le rêve et tout. Et
ouais, mais c'est chaud. La NBA, c'est chaud en général, et New York, c'est encore plus chaud. Tu vois, la presse, c'était un truc de fou, c'était tout le temps... Donc déjà, ça s'est passé moyennement avec la presse, parce que je parlais pas super bien anglais. Encore une fois, je parlais correctement, mais pas super bien, j'ai beaucoup progressé depuis. Donc ça se passait moyen, mais les résultats étaient pas terribles, parce que mon opération du dos, et en fait, le truc qui m'a décidé à pas y aller tout de suite, en tous les cas, c'est quand on était à l'hôtel, justement, on était à Boston, parce que la Summer League à l'époque avait lieu à Boston. Et je vais pour rentrer, il y avait une nana, une blonde qui rentre dans l'ascenseur. Moi, en France, tu vois une nana qui rentre, tu t'en fous. Une nana, un chien, un extraterrestre, tu t'en fous, tu rentres dans l'ascenseur, tu montes, tu vois.
Ouais,
ils me retiennent par le bras en me disant non, tu montes pas dans l'ascenseur. C'est pourquoi? Je dis, tu montes jamais tout seul avec une nana dans l'ascenseur. Tu vas avoir un procès, tout ça. Je dis, mais moi, j'ai jamais rien fait de ma vie. Ça ça suffit pas, ils m'ont dit de rien avoir fait. Il faut jamais, donc je me dis, c'est quand même un drôle de monde, quoi.
Ouais, ok. Et ça t'a marqué?
Ça m'a marqué, mais grave, je me suis dit, en fait, moi, tu vois, vraiment, je suis à mille lieues de penser quoi que ce soit de mal, enfin, tu vois, au contraire, je suis limite naïf. Quand il m'a dit ça, le mec, je me suis dit, merde, enfin, c'est un drôle de monde.
Ouais, j'imagine. Putain, c'est, je savais pas que, tu vois, c'était encore depuis, tu vois, certaines affaires frauduleuses dont on va taire le nom, tu vois. Je savais pas que c'était aussi imprégné même avant, parce que ça remonte des années 90, années 2000,
99, quoi. 99, 2000, ouais. Enfin, donc j'y suis allé, mi-99.
Donc
concrètement, ça fait très longtemps que ça existe, ça. Et en NBA, je te dis, le premier conseil qu'on m'a donné, c'était celui-là, de pas monter dans un ascenseur quand il y a une femme seule.
Ok.
Chaud, quand même.
Waouh. Ok. Bon, bah, écoute, franchement, merci pour cette anecdote, tu vois, pareil, ça s'invente pas, je pense, tu vois.
Ah non, mais moi, je te dis, ça m'a choqué, et pendant longtemps, mais même en France, après, pendant longtemps, j'avais du mal à monter quand il y avait une dame seule qui rentrait, tu vois. Je dis, je vais pas voir, et en fait, ça revient naturellement après quand même, mais tu te poses des questions, et tu te dis, ok, moi, encore une fois, je comprends ce qui a pu se passer avec toutes ces femmes et tout ça, je suis le premier à en être désolé, mais je sais que de l'autre côté aussi, ça, des accusations mensongères, ça existe aussi.
Ouais, aux États-Unis, ouais.
Aux États-Unis, ouais, principalement. Donc, tu vois, maintenant, j'ai un regard un peu différent par rapport à ce genre de choses.
Ouais. Puis quand t'es un homme, peut-être un peu naïf et que t'as un peu d'argent.
Ah, ben oui, mais
c'est évidemment ça. Tu vois, et un athlète de haut niveau, c'est une cible, tu vois.
Bien sûr.
Donc, comme pour d'autres choses, hein, tu vois, les il y a bien plus de braquage dans les athlètes de haut niveau. Enfin, chez
évidemment, niveau, mais c'est normal. Et en même temps, en général, les athlètes de haut niveau montrent leur réussite sociale parce que c'est des gens qui, on vient tous d'un milieu un peu, enfin, on vient pas d'un milieu aisé, on n'a pas hérité de ça. On crée notre argent. Et donc, c'est vrai qu'on le montre un peu plus que la moyenne. Donc, peut-être que c'est une des raisons aussi pour laquelle c'est plus facile de s'attaquer à nous, concrètement.
Ouais, ok. Et, t'es accompagné justement sur tes sujets. Je m'en rends pas compte quand t'es un joueur de professionnel de basket et tout. Je sais pas, vous en parlez entre vous. Vous êtes accompagné justement sur comment un peu se comporter, comment gérer l'argent, comment.
Pas du tout. Pas du tout. Enfin, à mon époque, c'était pas du tout. Mais en fait, on a beaucoup fait de progrès par rapport à ça, par rapport à la préparation mentale, par rapport à l'alimentation. Moi, je te parle d'un temps où moi, avant les matchs, je mangeais une pizza. Hein. Enfin, tu vois. la veille des matchs, je mangeais une pizza.
Ouais.
Enfin, je pense
que personne ne disait rien.
Et personne ne me disait rien.
Ouais.
Enfin, tu vois, tu mangeais un peu ce que tu voulais, tu buvais du coca, ce qui est complètement ridicule, en fait.
Ah, ouais.
Et en fait, tu te rends compte que tu dis, mais comment c'est que j'avais des creux parfois pendant la saison? Bah, tout simplement parce que, je savais pas prendre soin de mon corps suffisamment. Alors oui, j'avais des performances parce que, sur la base, je savais jouer au basket et je me débrouillais. Mais, concrètement, si j'avais fait attention à ce que je mange, si j'avais eu un préparateur mental, les choses auraient été différentes, en fait.
Ouais, ok. Je me rends pas compte que c'était à ce point-là amateur, tu vois. Enfin, amateur, entre guillemets.
C'était à la fois amateur et professionnel, parce qu'on exigeait énormément de nous, et je suis pas sûr qu'on exigeait pas plus que ce qu'on exige maintenant, parce que en termes d'entraînement, moi, je peux te dire que j'ai vécu des périodes avec des Serbes, qui te faisaient entraîner vraiment comme des chiens, et tu courais. et je me rappelle, justement, quand je reviens en 2000, je reviens en France, après la Summer League, parce que ils me disent, on signe le contrat de 4 ans, je dis non, je signe pas, je suis pas bien, je préfère retourner en France, justement, pour soigner mon dos. Donc je re-signe à Limoges et là t'as un Serbe qui nous dit allez on va à Font-Romeu directement,
ok,
et on se lève le matin à 6h30, on va courir à 7h, de 7h à 8h on court, on se douche, on mange, on repart à l'entraînement pendant 3h, enfin tu vois, un cycle incroyable. Et quand on lui demande une journée, le mec il nous dit ah ok, une journée. Donc il nous donne une journée, le lendemain il nous massacre encore plus, donc on n'ose plus lui demander une journée. Enfin, dans la chambre il n'y a pas de télé.
Ouais, okay.
Tu dors directement comme en prison, quoi, comme en prison dans les prisons américaines, sur du dur, comme ça, sur le béton. Tu dis, maintenant, on pourrait plus supporter ce genre de truc, tu vois.
Ouais. Il y a des trucs un peu contradictoires, et tu vois, même dans la série sur Jordan, on le voit fumer des cigares, on le voit boire du champagne.
Ah, parce que toi, tu penses que t'es capable d'aller voir Michael Jordan en disant, écoute, t'es pas assez bon. Faudrait que t'arrêtes le cigare et que t'arrêtes le champagne.
Non, mais je veux dire, est-ce que tu vois, je sais pas, j'en sais rien.
En fait, je pense que c'était une période où, alors ça l'est aussi maintenant, hein, athlètes étaient des superstars et des gens comme Jordan étaient intouchables. Alors encore une fois, maintenant, c'est encore une fois une ligue de joueurs et pas une ligue de coachs ou de dirigeants, la NBA. Mais je pense qu'il y a une déontologie qui s'est installée. Petit à petit, par rapport à l'alcool, par rapport au fait de fumer, etc. Donc, je pense que les gens font plus attention. Ce qui n'empêche pas qu'ils continuent à fumer, à boire, évidemment, et heureusement, parce que c'est quand même des êtres humains. Mais on aurait du mal à le voir en public maintenant. Parce que l'image est beaucoup plus répercutée avec les réseaux sociaux.
Ouais.
Aussi.
Ouais, faut faire beaucoup plus gaffe.
Faut faire attention. Moi, je me rappelle une fois, je sortais jamais, je bois pas d'alcool. Sauf qu'une fois, je suis sorti, et je suis un peu fou. Ça se voit pas, je sais, mais je suis un peu fou. Et donc, j'ai vu une personne qui avait des lunettes qui étaient fluorescentes.
Okay.
Donc, après un match perdu, hein, il faut préciser quand même. Je sors, et donc, je mets ça, et je buvais du coca, moi. Hein. Et ben, le lendemain, j'étais dans le journal local.
Ah,
à Bilbao.
Okay.
Alors que je n'avais pas bu d'alcool. On avait perdu, oui, mais c'est pas. Enfin, voilà, la vie ne s'arrête pas. Et je buvais du coca, concrètement. Et il devait être 23h. Sauf que les mecs, quasiment, c'était un scandale que je sois sorti, tu vois, après un match perdu.
Sur interprétation.
Donc j'avoue que maintenant. Et comment ils avaient eu l'image? Par un mec qui était dans la salle, et dans le bar, et qui m'avait pris en photo comme ça, tu vois.
Ouais, ok. Ouais, ça, tu peux. Ça, il n'y avait pas à l'époque, quoi.
Mais il y avait
beaucoup moins.
Ce que je t'explique, c'est que là, la coïncidence a voulu que tout soit complet et que le mec prenne une photo, qu'il connaisse le journaliste, etc. Mais sinon, ça n'arrive jamais. Mais maintenant, n'importe qui peut te prendre en photo et le mettre sur sa story et là, t'es mort. Enfin, tu vois.
Ouais, c'est clair. J'en parle même avec beaucoup d'athlètes que je reçois sur le podcast et je leur dis, être athlète de haut niveau maintenant, c'est quand même deux fois plus dur. En tout cas, selon moi, qu'il y a 30, 40 ans. Parce que maintenant, On te demande de gagner, d'avoir beaucoup confiance en toi, mais d'être humble. On te demande de, d'être un super bon communicant et en plus de vachement bien t'entraîner. On te demande de faire des contrats de pub parce que y a plus d'argent dans le sport. On te demande de faire mille trucs en fait.
Mais pas avec n'importe qui, parce que si tu veux, si tu vas chez Nike, on te critique parce qu'il y a des gens qui travaillent.
Exactement.
C'est honnêtement, c'est la folie. T'es tout le temps en train de réfléchir dans ce que tu fais. Mmh. Et j'ai l'impression que les sportifs sont parfois moins sportifs que businessmen.
Ouais.
Parce que mais par obligation, ils sont quasiment contraints, parce que effectivement pour gérer leur image, pour gérer leurs intérêts, pour savoir avec qui ils signent, bah c'est tout le temps une réflexion en fait. Donc il faut qu'ils soient très bien entourés ou que eux-mêmes soient de bons négociants.
Ouais. Ouais. Tu conseilles des jeunes là, tu vois, sur ces sujets-là, toi qui as une certaine expérience et qui as de la bouteille, t'as vu plein d'exits. Quand j'écoute tes histoires, je me régale, je me dis mais putain, mais un jeune, et j'espère qu'il y a des jeunes qui vont nous écouter, tu vois, mais un jeune qui a 15-18 ans dans le basket, tu vois, c'est avoir ce type de retour, ça vaut tellement cher.
Alors honnêtement, c'est très difficile. Les gamins de maintenant, c'est très difficile. Moi je fais des camps de basket, ouais. Et donc j'ai des gamins mais qui ont pas forcément tous le potentiel ni l'envie d'être basketteurs professionnels. Quand ils sont basketteurs professionnels, ils ont déjà ce que j'appelle le boulard.
Ok. Ouais.
Pour la plupart. Alors bien évidemment, il y a toujours des exceptions et c'est tant mieux. Des gens qui sont posés, ouais. mais ils ont le boulard, pas de leur faute. Encore une fois, moi je les critiquerai jamais. C'est juste que leur famille, leur entourage, les montent tellement, leur dit tellement qu'ils sont bons tout le temps, etc. Qu'à un moment, bah ils pètent les plombs. T'imagines, t'as 15 ans, t'es au foot, tout le monde te dit que t'es le meilleur, tu commences à toucher de l'argent à 15 ans. Et tu dois être calme. Et pas qu'un peu. Et tu dois rester calme. À un moment, non, t'es pas fait pour ça à 15 ans. Il faut que tu sois bien entouré, que tu sois bien cadré, etc. Donc, honnêtement, c'est très difficile de conseiller des jeunes qui pensent qu'ils ont déjà tout vu, hein.
Ouais.
Tu vois, moi, un exemple, j'étais à Limoges, je me baladais. J'ai un jeune, un espoir, un jour, qui vient me voir, il me dit, ah, frère, je suis content de te voir, tout ça. Donc, c'était cool, tu vois. Il dit, mais moi, je t'aurais dunké dessus, hein, si j'avais, avant. Il dit, mais petit, t'aurais même pas joué contre moi. T'aurais été avec les espoirs et tu m'aurais regardé, tu m'aurais peut-être applaudi, mais c'est tout, quoi. Enfin, tu vois, à un moment, les mecs, ils se croient déjà arrivés.
Okay.
On peut se croire arrivé dans le sport quand t'arrêtes ton sport. Parce que t'es arrivé où t'es arrivé, en tout cas. Bien ou mal, peu importe. Mais t'es arrivé où t'es arrivé. Mais pendant, c'est rien, c'est des conneries de penser que t'es arrivé déjà.
Ouais. T'as bien raison. Toi, t'as pas eu ce souci d'ego, là, justement, parce que 23 ans, mine de rien, t'es quand même vice-champion olympique. Ouais, t'avais 23 ans, non, c'est ouais, ça, en 2000?
J'avais 23 ans, ouais, c'est ça. Ouais.
T'as pas pu avoir le boulard à un moment ou à un autre?
Honnêtement, c'est super simple, moi je te dirais que non. Mais non, mais concrètement, tu me poses la question maintenant, je te dirais évidemment, sauf que c'est trop simple, tu vois. Ouais.
Mais avec le recul,
avec le recul, j'irais un peu. Honnêtement, je pense que j'étais pas le pire mec du monde. Mais un petit peu, concrètement, ouais, je suis médaille olympique, je signe un gros contrat dans un club étranger de qualité, je vais à l'entraînement en short toute l'année, tu vois, c'est un petit peu forcément, tu vois, ma famille me le dit maintenant en me disant, ouais, t'as une période où tu l'as raconté un petit peu, mais pas le mec qui se la raconte méchant, mais celui qui
fait la vie, quoi.
Qui pense que, qui sait tout, et ce qui, voilà, c'est des conneries. Maintenant, avec l'âge, je me rends compte que plus je vieillis, moi j'en sais, et ça m'inquiète par contre. Mais concrètement, il y a un âge où tu crois que ton opinion compte plus que les autres. Oui,
ouais.
Bien sûr.
Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui te remet sur terre, du coup?
Mais ton entourage, encore une fois. Si ton entourage abonde dans ton sens et que chaque fois que tu dis un truc, tu dis oui, t'as raison, ça n'aide pas. Hein. Parce que parfois t'as raison, mais souvent t'as tort aussi. Surtout quand t'as 23 ans, parce que la vie tu la connais pas. Tu peux faire le malin autant que tu veux, tu la connais pas. Donc ouais, c'est ça. Je pense que l'entourage est bénéfique par rapport à ça.
Mais c'est peut-être bien aussi d'ailleurs, tu sais, que tes parents, enfin ton père, soit pas devenu ton agent comme certains autres joueurs, tu vois. Enfin, y a pas de jugement, hein, zéro jugement, mais parce que ça les laisse en dehors de tout ça et du coup ils peuvent effectivement par rapport à toi prendre du recul et
mais je te rejoins complètement. Et mon père m'a dit, moi je suis ton père, je suis pas ton agent. Je veux pas cumuler les trucs. Encore une fois, il y a pas de, je critique pas ceux qui l'ont fait parce que parfois ça a fonctionné, hein.
Bien sûr. Mais
je trouve que ça crée quelque chose de compliqué en fait dans la famille. C'est-à-dire que quoi, c'est ton père ou c'est ton agent qui te parle quand il te donne un conseil? Parce que ton père veut toujours ton bien, ton agent il veut que tu gagnes plus d'argent. Donc à un moment, tu vois, la frontière elle est mince quand même entre les deux, et c'est la même personne, et je pense que ça peut créer vraiment des problèmes dans une famille.
Ouais. Ah ouais. T'en as vu?
Mais moi j'en ai vu, et j'ai vu des divorces entre père et fils. Mais des divorces, voilà, je suis plus ton agent parce que pour moi c'est plus important que tu sois mon fils que tu sois la poule aux œufs d'or. Moi j'ai un autre métier, etc. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance d'avoir un autre métier. Et je peux comprendre que quand on voit son fils qui gagne des centaines de milliers d'euros par mois et qu'on en prend un petit pourcentage à pas faire grand-chose concrètement parce que c'est son fils, bah, je peux comprendre que ça puisse griser et que il y a pas beaucoup de métiers qui te rapportent ça. Mais c'est compliqué. Je honnêtement, moi je le ferais pas. Mais c'est hyper simple de dire ça. Chacun a des situations différentes et encore une fois, parfois ça marche.
Ouais. Ouais, puis il y a aussi des fois des papas qui ont envie de qui sont un peu protecteurs et qui font ça pour protéger leur enfant et
bah s'ils le font pour ça, ils se trompent complètement.
C'est vrai.
Protéger ton enfant justement, c'est d'être un petit peu en dehors du système. Parce que si t'es dans le système, t'es noyé dans le système.
OK.
Et tu te rends plus compte ce qui est bénéfique pour ton fils, tu te rends compte ce qui est bénéfique pour le joueur ou pour le compte en banque du joueur. Mm. Ton fils doit toujours être plus important que le joueur.
OK. Écoute, c'est hyper intéressant ce que tu dis et là on parle un peu de paternité. Tu vois et ton histoire, elle m'a beaucoup touché la première fois que, enfin, j'étais pas au courant de ta paternité à toi. Et c'est Brian Cantero de Square Champs qui m'avait parlé de toi et qui m'avait dit, parce que moi je suis papa aussi deux fois, j'ai eu deux paternités un peu particuliers, on pourra en parler si tu veux, mais, ouais. À quel âge t'as été papa, toi?
Alors, moi, j'ai été papa, alors mon fils aura 20 ans en février, à 40, 23 je crois, 24, enfin j'allais avoir 24 quoi concrètement.
Super, ouais. Jeune.
Donc jeune.
Médaille olympique.
Voilà, c'est ça.
OK. Donc,
jeune.
Comment tu réagis, comment t'apprends pour ton fils?
Que j'apprends qu'il va naître ou qu'il a son souci?
Les deux.
Alors que j'apprends qu'il va naître comme la plus belle chose qui puisse m'arriver. En fait, je fais partie de ceux qui pensent que quand on est sportif au niveau, on est chanceux. On est très chanceux, on vit une vie incroyable, mais qu'on a besoin d'un cocon familial. Donc moi, j'ai envie de me reconstruire un cocon familial et me dire que j'ai un enfant qui va arriver. C'est quelque chose, pour moi, qui est important. Vraiment très, très important. Je suis hyper heureux. Je pense que, tu sais, les femmes disent toujours « je suis né pour être mère ». Mais moi, j'étais né pour être père, en fait. C'était vraiment le truc qui m'intéressait le plus. Le reste, pour moi, c'était des conneries. Et je le pense toujours, d'ailleurs, un peu. Regarde, tu vois, moi, j'ai pas de montre. J'ai rien du tout. Je suis pas du tout matérialiste. Je sais pas où est ma médaille olympique. mais pour moi, le plus important, c'est de perdre dans la vie. Et c'est vrai que, quand j'ai appris ça, moi, j'étais le mec le plus heureux de la Terre. T'imagines? Voilà. C'est ce que je voulais. Et tellement d'ailleurs que mon coach à l'époque m'a dit à un moment, Fred, faut que t'arrêtes de te lever la nuit parce que t'es catastrophique au match. je crois que j'ai fait un mois où il m'appelait le pire joueur du mois parce que j'étais catastrophique pendant ce mois-là. Et il m'a dit, Fred, tu te lèves plus la nuit déjà. Donc déjà, c'était pour te dire à quel point moi c'était important pour moi. Moi, la nuit, le petit dormait pas, avait beaucoup de difficultés à dormir, et donc moi j'allais dans le parking pour lui faire faire des tours, donc pour te dire à quel point j'étais attaché à Enzo. Et il se trouve que un jour on l'a mis à l'école française de Bilbao, et qu'on nous a dit qu'il y a un problème. Alors moi je pensais que c'était un génie, parce qu'à 12 mois il parlait aussi bien que toi et moi, donc je me dis c'est un génie, c'est des débiles, ils comprennent rien, tu vois. Elle dit, son institutrice nous dit, moi si j'étais vous j'irais voir quelqu'un quand même. Donc Célia, sa maman, me dit, tiens, on devrait peut-être l'écouter. Moi, un gros con, bien fini. Je dis, non, c'est une grosse conne, elle comprend rien, qu'elle allait se faire voir, quoi. Et au bout d'un moment, nous aussi, on commence à regarder, à trouver qu'il y avait un dessin un peu particulier. Donc elle me dit, écoute, t'es d'accord ou pas, on a rendez-vous demain, on va chez quelqu'un chez un docteur pour voir ce qu'il en est.
Il a quel âge à ce moment-là?
Il a 3 ans, parce que ça se détecte pas avant 3 ans, apparemment. Tous les cas, à l'époque-là, c'était un peu la règle tacite.
Ouais.
Et donc, on va dans le cabinet du mec, on rentre, le mec, on s'assoit, en gros, j'avais même pas une fesse posée sur la chaise, il nous dit, votre fils est autiste, vous aurez jamais de petits-enfants, et c'est pas une maladie, c'est un handicap, donc ça se soigne pas. Ok. Donc après, je crois qu'il a continué à parler, mais je sais pas, parce que mon cerveau, il a la switch off, et je sais pas ce qui s'est passé. Et je me suis retrouvé dehors avec Enzo et Célia. Célia qui me dit, Fred, il faut que tu ailles à l'entraînement. Je dis, OK. Je crois qu'on s'est même pas fait de bisous, rien du tout. Elle est partie de son côté avec Enzo à la maison. Je suis parti à l'entraînement comme un zombie. Je ne me rappelle plus du chemin pour aller à l'entraînement. Je me rappelle de temps en temps comme si je me réveillais pendant l'entraînement. En fait, tu vois que j'étais en switch off complet. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris et c'est comme ça que ça a été compliqué, quoi.
OK.
C'était le début. Okay. C'était le début des catastrophes.
Tu te souviens de ce qui t'affecte à ce moment-là?
Moi, le truc qui m'a le plus affecté, c'est con, hein, mais c'est quand il m'a dit que vous aurez jamais de petits-enfants. Là, ça m'a affecté parce qu'encore une fois.
En plus, c'est un mensonge. Parce que tu peux refaire des enfants.
Oui, non, mais deux petits-enfants avec Enzo, en fait.
Ouais, ouais, non, mais bien sûr.
Lui, oui, mais sauf que.
Je sais pas comment il le dit, mais.
Ben, il le dit en espagnol, déjà. mais concrètement, ce qu'il voulait me dire, c'est qu'avec lui, vous aurez jamais de petits-enfants. Sauf que moi, j'entends pas ça. J'entends, vous ne pourrez jamais avoir de petits-enfants.
Ouais, bien sûr.
Et là, pour moi, c'est un choc. Parce que comme je te disais, je suis né pour être père. Donc, si je suis né pour être père, à un moment, par définition, j'ai envie d'être grand-père, quoi.
Comment t'as su que t'étais né pour être père? Je suis curieux de...
Mais c'est un truc, en fait, j'ai toujours ressenti ça, en fait. J'ai toujours eu, en fait...
Ado et tout tu...
J'ai connu Célia, j'avais 18 ans. À 19 ans, je voulais déjà qu'on ait des enfants.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okay. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi c'était même long presque limite les 5 ans pour l'avoir. Parce que moi je voulais des enfants depuis toujours. Enfin c'était vraiment... Je pouvais pas concevoir une famille sans enfants. Et je me suis dit plus je les aurais jeunes, plus je pourrais jouer avec eux. Parce que je suis un grand gamin aussi. Donc je me disais plus je les aurais jeunes, plus on pourra faire de conneries ensemble, tu vois. Donc voilà, moi limite... J'étais soulagé de l'avoir à 24 parce que je me dis, j'ai cru que j'en aurais jamais, tu vois, c'était long. Donc imagine quelqu'un qui raisonne comme ça, à qui on dit ça se soignera jamais et vous aurez jamais de petits enfants. Ouah, mais moi c'était fini, enfin ma vie était finie quoi. Je suis devenu un zombie là.
Dis-moi si je me trompe, mais là je me suis beaucoup renseigné sur les autistes Asperger et apparemment de plus en plus. Ouais, faire de l'hypnose, peux faire des choses.
Déjà, tu l'as dit, tu t'es renseigné sur les autistes Asperger.
Ouais, exactement.
L'autisme.
Je connais pas.
Tu sais combien il y a de formes d'autisme? J'ai le chiffre exact, moi. Vas-y, tu sais, toi?
Je sais pas, je dirais une vingtaine.
Non. Autant qu'il y a d'autistes.
Ouais, donc.
Tu vois, quand je te dis que j'ai le chiffre exact, je peux pas me tromper, parce qu'il y a autant qu'il y a d'autistes. mais concrètement, tu peux pas déterminer exactement. Effectivement, il y a des sous-catégories, si tu me passes l'expression, dont les autistes Asperger qui ont des facultés un peu plus importantes, j'allais dire, mais et encore tous n'ont pas les facultés de Rayman, hein, par exemple, parce que ça c'est illusoire aussi, mais leurs facultés sont un peu plus importantes. Et moi c'est un autisme sévère quand même. Donc c'est-à-dire que mon fils il a 20 ans là, enfin il va avoir 20 ans, et ça me met un gros coup de vieux aussi. Il va avoir 20 ans et il sait pas lire, il sait pas écrire par exemple.
Okay, alors
encore une fois, ça a aucune importance.
Alors qu'il savait parler.
Ah, oui, mais encore une fois, il parle très correctement, mais il sait pas lire, il sait pas écrire. Je vais rentrer dans les détails un peu scabreux. Il va aux toilettes, il sait pas s'essuyer les fesses, par exemple. Il a 20 ans. Donc si je le fais pas, ou si sa mère le fait pas, ou si ses éducateurs le font pas, encore une fois, c'est pas très joli ce que je veux dire, mais malheureusement, c'est ma vie, donc, il a la merde au cul toute la journée.
Ouais. Faut s'occuper de lui.
Donc il faut s'occuper de lui. Tu vois, c'est pas simple, quand même, de se dire qu'à 20 ans, tu douches ton fils. Je encore une fois, c'est pas très joli, mais je veux vraiment rentrer dans les détails pour que les gens se rendent compte. Je lave mon fils de bout en bout. C'est-à-dire que même à des endroits que j'aurais souhaité ne pas toucher. Tu vois?
Ça reste ton fils.
Ça reste ton fils, mais mon fils, il a 20 ans maintenant.
Ouais, c'est sûr que
tu vois ce que je veux dire? Mon fils, quand il a 12 ans, jusque là, ça va sans problème. Dès qu'il commence à avoir des poils et que parfois il a une érection parce qu'il est content quand tu vois, c'est pas hyper simple comme situation quand même. Et sa mère le vit au quotidien parce qu'en plus voilà, sa mère le garde beaucoup plus souvent que moi. Moi je tire mon chapeau à ces femmes qui gardent leurs enfants, c'est incroyable.
Bien sûr.
C'est incroyable. Moi j'ai pas la même force mentale qu'elle et j'ai beaucoup souffert. Elle était beau, tu vois, comme quoi le physique ça veut rien dire. Je fais 2m17 100 kilos. Et elle fait 1m59 et elle est beaucoup plus forte que moi.
Ouais.
Tu vois, comme quoi.
Et tu vois, c'est marrant parce que tu vois, on dit toujours que derrière des athlètes, il y a souvent aussi une deuxième personnalité qui soutient, qui te permet aussi de vivre toi tes rêves et de mener ta carrière, tu vois, avec chacun dans un couple, chacun a son rôle, entre guillemets.
Mais je suis complètement d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord. Et le rôle le plus important, c'est pas celui qu'on voit. Hein.
Bien sûr.
Parce que resserrer un peu tout, raccommoder quand ça va pas, etc., c'est beaucoup plus important finalement qu'un con qui court après un ballon, hein, concrètement.
Ouais. C'est comment tu vois aujourd'hui, on t'a dit que sur ton quotidien, effectivement, il est particulier, il est unique, c'est le tien, tu vois. Mais comment ça a été, quoi, un peu les grandes étapes de réflexion pour l'accepter et pour bien le vivre, tu vois. Je veux dire.
Il a fallu passer par toucher le fond du fond du fond. L'accepter et bien le vivre, jamais j'accepterai, jamais je vivrai bien. Je le supporte. Okay. La situation, je parle pas d'Azo, hein, évidemment. Je supporte la situation. Et en fait, pour essayer de remonter, c'est quand j'ai touché le fond. En fait, moi, j'ai essayé de me suicider deux fois. Hein. Donc à partir de là, quand tu touches le fond du fond, à un moment, soit tu remontes, soit tu restes en bas, hein, et c'est fini, c'est quoi. Donc à un moment, il a fallu se battre avec moi-même. Mais tu vois, là, je fais le malin, je parle beaucoup, etc. Mais concrètement, j'ai pas gagné encore. Hein.
Ouais, bien sûr.
C'est hyper précaire. Moi, il y a plein de jours où c'est très compliqué, où je suis pas bien, où j'ai pas envie de me lever.
T'as pris des médocs?
Oui. Ouais, j'ai pris des médocs. Tu vois pas comment j'ai grossi ou quoi? Le mec m'avait pas dit quand il m'a donné ça. Il dit, ok, ça va te détendre. Ok, j'étais détendu, mais j'ai pris 50 kilos, quoi. Et c'est pas une façon de parler. J'ai vraiment pris 50 kilos, hein.
Ouais.
Donc là, j'en ai perdu une vingtaine, mais j'ai dû en perdre 20-25. J'en ai encore 25 de trop, hein.
Ouais. Ça maintient un flot d'être basketteur pro?
En fait, je pense que c'est le boulot qui te maintient à flot. Je pense que peu importe le boulot que tu fais, si tu l'aimes un temps soit peu, ça te maintient à flot. Parce que j'avais envie d'essayer de faire les choses correctement, parce que c'était ce qui avait rythmé ma vie tout le temps, donc ça me permettait d'avoir un rythme. Et tu vois, j'ai voulu arrêter. Et je pense que c'est là qu'a été mon erreur. C'est que quand j'ai voulu arrêter. Parce que concrètement, c'était la seule chose qui rythmait ma vie. C'est la seule chose qui me donnait des horaires imposés, des choses obligatoires, etc. Donc c'est là que ça a été plus dur, en fait, quand j'ai arrêté.
Ouais. Et tu penses qu'on accompagne assez les athlètes justement sur ce stop?
Oui, mais je te dis beaucoup plus maintenant. Moi, quand je me suis arrêté, tout le monde m'a dit allez, merci, sympa. On va te donner. Allez, il reste un pins pour le grand. Ok, on lui donne un pins et c'est fini, quoi, tu vois. À un moment, c'était un peu ça, tu vois. Sauf que
on propose pas un job.
Tu vois, moi, j'ai joué à Limoges pendant des années. J'espérais avoir un job à Limoges. J'ai fait partie des années 2000 où on fait un triplé et on est là pour aider le club, etc. Donc je me dis, bon, à la fin, Limoges, ce sera obligatoire qu'il me propose un truc. Mais non. Et je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais c'est comme ça, en tout cas. La réalité est là. Et ce point de vue-là, tu t'es pas préparé à t'arrêter parce que tu dis, qu'est-ce que je vais faire?
Tu te retrouves.
Je sais rien faire. J'ai jamais rien fait de ma vie. À part courir après un ballon, quand même. Enfin, quand tu l'écris vraiment sur un CV, j'ai couru après un ballon. Ça fait pas lourd, quand même.
Vu comme ça, non, c'est clair que ça fait.
Alors
ça fait
oui, mais ça m'a fait plein d'expériences et maintenant, tu vois, je fais des interventions en entreprise parce que j'ai vécu dans le collectif, j'étais capitaine à Bilbao, etc. Oui, j'ai beaucoup d'expérience. Mais comme ça, quand tu te retrouves face à toi-même, face à une feuille, à faire ton CV et que tu peux écrire que ça.
Compétences professionnelles.
Waouh. Ouais. Je peux te dire que ça te met une grosse claque, que d'un seul coup, le téléphone, il sonne plus du tout. Et que t'es obligé quasiment d'harceler les gens pour trouver du taf, en fait. Ah, c'est relou quand même, tu vois. Ça, c'est un changement de position qui est compliqué.
Comment t'as fait pour justement pour rebondir du coup?
J'ai couché. Non, j'ai pas couché.
Je sais pas. Dis-moi. Raconte-moi.
Non, pas du tout. En fait, j'ai la chance de connaître des gens qui sont hyper intéressants et tu vois, par exemple, Jacques Monclar m'a beaucoup aidé. En fait, quand j'ai arrêté, j'ai la radio de Limoges qui m'a proposé de commenter un petit peu pour France Bleu Limousin, pardon. Et c'est vrai que ça m'a permis de voir que j'aimais ça, parce que je l'avais fait quelques fois en Espagne, sur une radio espagnole. Et là, c'était du commentaire de match. Donc, j'avais jamais fait vraiment, et ils m'ont vraiment donné ma chance, et je les en remercie vraiment, parce que concrètement, on savait pas ce que ça allait donner. Et Jacques Monclar a beaucoup parlé de moi à RMC, c'est comme ça que je suis rentré à RMC. J'ai plusieurs personnes comme ça qui ont été mes parrains un petit peu pour me permettre... Comme Jérôme Pinault aussi, le cycliste que je connais bien, qui a parlé de moi à RMC en disant il a un peu de la gueule, ça se tenterait. Et donc voilà, mais concrètement, si t'as pas deux, trois amis...
Ça met du temps.
Ouais. C'est chaud. Voilà.
Ah, et puis même des amis, ça peut t'oublier, tu vois, si t'as année, deux années de un peu à vide où tu donnes plus trop de nouvelles,
bien sûr.
On peut t'oublier, quoi.
Mais donc, très facilement.
C'est les vrais amis.
En même temps, je reprocherai pas ça à mes amis, parce que je pense que j'aurais fait pareil. À un moment, t'as plus de nouvelles de quelqu'un, t'es entraîné dans le cycle de la vie qui te fait penser à d'autres choses, concrètement, moi, on me demande parfois d'aider des gens. Et la plupart du temps, j'essaie de dire oui, sauf qu'il y a des fois, je zappe parce que entre temps, j'ai reçu 15 mails et qu'il faut que je lise mes mails, etc. Enfin, tu vois, c'est...
Bien sûr. Ouais.
Bah, tu sais aussi bien que moi. Enfin, concrètement, j'ai essayé de te joindre et parfois tu répondais pas, enfin, tu vois.
Et vice versa, mais c'est normal, c'est normal. Ok. Et je sais qu'il y a un sujet, du coup, qui te tient à cœur vis-à-vis de ton fils. C'est tout ce que t'es en train de créer autour. Je sais qu'il y a des événements qui arrivent bientôt et tout. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, du coup, la genèse de ce projet-là, l'expliquer aux auditeurs, et qu'on puisse vraiment rentrer à fond dans ce sujet, quoi, tu vois, et vraiment l'expliquer aux auditeurs, tu vois, parce que je trouve ça beau, en fait.
Ça fait quelques années que je suis revenu en France, plusieurs années maintenant, et au fur et à mesure, avec la maman d'Enzo, on s'est rendu compte que, dans les IME, il y avait de moins en moins de moyens, que les sorties étaient de plus en plus compliquées, qu'on demandait aux parents de payer sur les sorties et tout ça, et on s'est posé la question. Est-ce qu'on va taxer les gens? Ce que je déteste aller taxer les gens parce qu'on est suffisamment taxé. Il faudrait qu'on propose un service qu'on vende et sur ce qui nous resterait de bénéfices, on pourrait, entre guillemets, jouer à redonner un petit peu à droite à gauche.
Tu peux expliquer ce que sont que les IME?
Une IME, c'est un institut médico-éducatif.
Ouais.
En fait, c'est des personnes en déficience mentale principalement, mais il y a aussi du physique. Enfin, vraiment, il y a plein de choses. C'est des personnes en situation de handicap principalement. Et en fait, mon fils est dans une IME. D'ailleurs, il a été très bien accueilli et ça a été vraiment super cool la façon dont il a été traité. Malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance. Encore une fois, moi, je m'appelle Fred Weiss et à Limoges, ça aide un petit peu sur certains trucs.
Ouais.
Et en fait, on s'est posé la question, on s'est assis et on a dit, je lui ai demandé qu'est-ce que tu sais faire. Elle m'a retourné la question, qu'est-ce que tu sais faire? Je dis, moi, rien. À part du basket. Elle m'a dit, voilà, t'as ta solution. On va faire des camps de basket. Parce que tu vas pouvoir apporter une expertise à des gamins. Ils vont payer pour le faire, parce qu'il y a déjà des camps de basket qui existent. Sauf que le nôtre, il sera à but non lucratif. Et on essaiera de reverser de l'argent. Et en fait, c'est monté petit à petit. On a commencé dans un petit village à côté de Limoges, avec Aix-sur-Vienne, pour pas les citer. On était 20. Dans la salle, tu vois, t'imagines, on était 20, on commençait de zéro, quoi. On était 20, et petit à petit, on a grandi. L'année dernière,
t'organises une journée.
J'organise un stage d'une semaine, camp. Ce qu'on appelle un camp en basket, c'est un stage d'une semaine.
Ok.
Alors, en demi-pension à l'époque, parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir de la pension complète, et on fait payer la prestation, en fait. Donc, on a grandi, on a cherché de l'hébergement, etc. Et on est arrivé à l'année dernière, où on a créé à Buja, dans un centre de préparation olympique, deux sessions de plus de 50 jeunes à chaque fois, avec le premier stage de basket fauteuil de France.
Ok.
Donc incroyable. Là, je te raconte même incroyable. Pas comment on se l'a raconté. Là, je me racontais vraiment. Parce que la médaille olympique, c'est des conneries. Sauf que ça, j'étais vraiment content et fier de le faire, tu vois. Parce que le basket fauteuil le mérite, c'est un sport incroyable. Moi, je suis tombé amoureux, un sport que je connaissais pas. Et je suis tombé amoureux tout simplement parce que je rencontrais un garçon qui s'appelle Anthony Joubert, ouais. Qui était coach d'une équipe nationale et qui était coach au Krebs du basket fauteuil, ce qui est un peu leur INSEP à eux, à côté de Bordeaux. Et lui, il me dit, mais Fred, tu trouves pas que c'est un peu sectaire de dire que tu cherches de l'argent contre l'autisme? Tu sais, il y a d'autres handicaps. Ben, je dis, ouais, mais moi, j'y connais rien. Ben, écoute, ça tombe bien. Moi, si. Je t'aide et on monte le projet ensemble. Et c'est comme ça qu'on a intégré du basket fauteuil. C'est-à-dire qu'on fait pas un camp de basket fauteuil, un camp de basket classique. On fait un camp où il y a tout le monde. Sur le terrain, très souvent, ils sont séparés parce que effectivement, c'est pas exactement le même sport et c'est pas exactement les mêmes exigences. Sauf que, à la fin de la journée, on fait des tournois. Et on crée deux équipes. Une équipe avec des jeunes, des plus vieux et du basket fauteuil. Donc, les baskets fauteuils, rapporte autant de points que les autres. Donc, t'es obligé de les encourager. Donc, ça crée une vraie cohésion d'équipe. Donc, on a du partage. Et c'est exactement ça qu'on veut. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Honnêtement, c'était un vieux pieux. On s'est dit, voilà, ça va bien se passer. Je suis sûr, les gamins sont bons. Mais on avait une appréhension, forcément. C'est passé bien mieux que ce qu'on espérait. Les gamins sont bien plus intelligents que nous. Ouais. Et cette insertion, nous, on prône l'insertion.
Ouais.
Eux, ils la comprennent.
Ouais, ils la vivent.
Et c'est complètement différent, tu vois.
Ouais. Okay.
Tu vois, quand j'ai la chair de poule avec d'en parler, parce que franchement, j'ai vécu un moment, mais incroyable. Je suis pas très sensible.
Ouais.
Moi, j'avais la larme à l'œil. Mais pas de pitié pour les basketteurs fauteuils. Pas du tout. Au contraire. Ils m'ont tellement défoncé quand j'ai fait du basket fauteuil que j'avais pas de pitié. mais par contre, quel plaisir de voir ce partage, en fait. Cet échange. Moi, je dis toujours, on a peur de ce qu'on connaît pas. Ben oui, mais à la fin du stage, les basketteurs classiques, ce qu'on appelle les basketteurs claquettes chez nous, les roulettes, ils les respecteront et ils comprendront ce que c'est. Et ils auront pas peur. Parce qu'ils savent que c'est. Parce qu'il y aura aussi, et on a fait aussi une journée initiation au sport fauteuil en général.
Bien sûr.
Donc on a fait plusieurs choses. Super fier. Franchement, honnêtement, tu me demandes de quoi je suis fier ? Je suis fier de ça.
Ok, génial. Et c'est quoi là, du coup, les projets avec cet asso ? T'arrives à faire des camps, je sais pas, tous les 6 mois, tous les ans ?
Moi, je fais des camps principalement l'été. Alors, okay. Principalement l'été. Là, cet été, je pense qu'on aura des camps quasiment du 10 juillet à fin août. Un peu dans toute la France, parce que l'avantage, c'est que je connais pas mal de monde et que c'est vrai que notre projet leur a plu. Parce que c'est vrai que donner de l'argent, caritatif, j'allais dire, ça me plaît pas. Un but intéressant. Allez, on va dire un but intéressant, c'est bien. Un but intéressant, les gens sont contents, tu vois, que ce soit pas juste pour faire mon profit personnel. Et ça leur plaît, ça correspond à des valeurs de beaucoup de clubs. Et je me suis donc rapproché de plein de clubs. On sera à La Baule, par exemple. On devrait être à Aix-en-Provence, Venelle, exactement, il faut les citer. On sera à Moulins, par exemple. On sera à Gondange, parce que je suis lorrain et encore une fois, j'avais envie de revenir. Et on sera forcément en région parisienne. Donc ça, c'est l'été. Mais tu sais que j'ai une idée à la seconde, malheureusement. Ce qui rend fou tous les gens qui travaillent dans l'association. J'ai décidé de faire un tournoi 3-3, basket classique et basket fauteuil, le 22 décembre à Saint-Germain-en-Laye. Donc okay. Il y aura sur le même terrain, parce qu'un terrain de 5-5, c'est en fait concrètement deux terrains 3-3. Ouais. Pas tout à fait, mais nous on prend ce parti-là. Donc, on va considérer que sur le même terrain, d'un côté, on aura du basket classique, basket claquette, et du basket fauteuil, du basket roulette, parce que c'est nos appellations. Ce qui permettra que tout le monde se voit jouer, que tout le monde partage vraiment. On n'aura pas les basketteurs fauteuil d'un côté, les basketteurs classiques de l'autre. Non. Tout le monde sera sur le même terrain. Pas à jouer ensemble, l'un contre l'autre, parce qu'encore une fois, tu peux pas. Mais en exposition et en vue, ça sera en même temps.
Ok. Génial.
Je t'avais dit que je pouvais en parler pendant des heures.
Non, mais moi aussi, ça me stimule. Et tu vois, je vois que t'as des étoiles dans les yeux en parlant. Et ça fait du sens, tu vois. Ça fait du sens que... d'organiser ce type d'événement, tu vois. Et je pense qu'il n'y a pas mieux pour sensibiliser les enfants et même les adultes que de faire vivre ce que vit l'autre, tu vois, aussi.
Bien sûr.
Et de les mélanger. Donc,
moi, je pense que c'est le plus important. Et je te dis, je pense avoir joué un peu correctement au basket. Je suis allé sur un fauteuil, je me suis fait défoncer par une fille qui devait faire un tiers de mon poids, même pas. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est vraiment hyper physique pourtant. Et j'engage tout le monde à aller voir du basket fauteuil parce que vraiment ça m'a plu. Alors d'autres sports fauteuil, mais moi je prône pour ma paroisse forcément. Je préfère le basket fauteuil, mais c'est incroyable. Le basket fauteuil, c'est un rêve vraiment.
Okay. Donc bon allez, et du coup ça s'adresse même aux débutants. Tu vois, si moi par exemple qui joue juste au basket de temps en temps le week-end avec mes copains sous le métro pour histoire de faire le joueur manquant, tu vois. Est-ce que moi ça vaut le coup que j'y aille ou est-ce que c'est
pour le tournoi ou pour les camps, ça dépend.
Les deux.
Alors pour le tournoi sans aucun problème parce que voilà, c'est ouvert à tous par définition, sauf qu'il y a quand même une limite d'âge pour le basket claquette. C'est entre U15 et U20.
D'accord,
parce que on voulait limiter et que on joue pas des adultes contre des enfants. Voilà, en gros. Donc U15 et U20. Par contre, sur basket fauteuil, il n'y a pas de limite d'âge. Parce qu'on est jeune plus tard déjà, jusqu'à 23 ans. Donc on a préféré... Et aussi, parce qu'il y a beaucoup moins de licenciés au basket fauteuil. Donc on voulait avoir du monde. Donc, une des raisons pour laquelle il n'y a pas de limite d'âge réelle. Après, sur les camps, notre façon de penser, c'est qu'on accepte tout le monde. On accepte tout le monde parce que mon fils a été refusé de plein d'endroits. Je les citerai pas là. Et c'est pas ce qu'on veut vivre. On veut pas faire vivre ça à quelqu'un. Donc on accepte tout le monde.
Ok.
C'est comme ça. Chez nous, tu viens.
Et t'as fait jouer Enzo du coup?
Enzo, tu vois, pour l'instant, comme on n'a pas fait la session, en fait, on devait faire une session au basket adapté cette année, mais avec le Covid, on l'a pas fait parce que c'est une population à risque et ça met pas toujours le masque et tout ça. Enfin, je suis bien placé pour savoir avec Enzo. Ouais. Donc on l'a pas fait cette année, sauf que l'année prochaine, on aura du basket adapté aussi. Et notre ambition, c'est évidemment de faire rentrer Enzo. Sachant que la première année, ce sera du basket adapté avec des gens avec un handicap léger, parce qu'on veut que ça se passe bien pour la première année. Encore une fois, on est une vitrine, et au fur et à mesure, on intégrera du autisme lourd, parce que forcément, notre rêve, c'est que notre fils fasse nos camps de basket, forcément.
Ok. Il y a combien de bénévoles ou de salariés là qui bossent du coup sur cet asso
Ben alors, c'est super simple. Il y a deux personnes qui travaillent dessus, principalement, Célia et moi. Ouais. Donc, on a tout monté à nous deux. Sachant que même cet été c'était un peu compliqué parce que Célia travaillait, donc j'ai bossé un peu plus que prévu d'ailleurs dessus. On a intégré des personnes comme des gens comme Richard qui est coach à Saint-Germain-en-Laye justement, qui nous aide beaucoup. On a des nouveaux coachs qui sont intégrés dans le projet, etc. Mais on les intègre au fur et à mesure, mais j'essaie de les embêter le moins possible avec tout ce qui est en amont. C'est-à-dire que moi je veux qu'ils arrivent au stage, que tout soit tranquille. Sur le stage, moi je m'occupe pas de la technique.
Ok. Tu vois, je te parlais de... qui fait toute la préparation.
Moi, je fais la préparation. Je veux qu'ils arrivent, que tout soit tranquille. D'accord. Okay. Donc moi, je suis allé chercher les sponsors. Je m'ennuie pas. Concrètement. Parce que chercher les sponsors, c'est un vrai job à plein temps aussi.
Tu m'étonnes, bien sûr. Ouais.
Et donc
faire la com.
Exactement. Moi, ouais. Je suis tout le temps en train de discuter. Je suis tout le temps en visio en ce moment parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc c'est vrai que la com, on essaie de la faire le mieux possible. J'ai plein de gens qui ont répondu présent, notamment pour le tournoi du 22, qui nous ont fait des vidéos qu'on est en train de mélanger, j'allais dire, pour faire des vidéos encore plus sympas. Donc je les remercie vraiment beaucoup, tous ces gens. Je les remercierai les uns après les autres, évidemment sur les réseaux, mais je les ai déjà remerciés en personne. Pascal Gentil, par exemple, qui nous a fait une vidéo. Tu vois, on a des joueurs et joueuses de basket qui nous ont fait des vidéos. On a Stephen Brun qui travaille avec moi à RMC qui nous a fait une vidéo aussi. Donc tu vois, on arrive à avoir pas mal de personnes, mais c'est un vrai travail. Pour l'instant, on n'a pas d'employés. On espère en avoir rapidement. Et on espère avoir encore des bénévoles, mais je te dis, on a plein de gens qui s'intéressent, qu'on a intégré au projet, et tu vois, grâce à ça, on avance, parce que à deux, on est à nos limites, donc concrètement.
Ouais. Non, mais des fois, ouais, moi, je suis surpris aussi de voir à quel point dans le milieu associatif, tu peux aussi toucher les gens et aller trouver de l'énergie ailleurs et à quel point aussi les gens peuvent t'aider, tu vois, gratuitement et s'investir.
C'est con ce que je veux dire, mais tu vois, les vidéos que j'ai reçues, ça m'a touché, en fait. Et en fait, je l'ai envoyé à la jeune fille qui s'occupe de ça, qui nous fait les remix. Et elle m'a dit, mais c'est incroyable le nombre de personnes qui vous font des vidéos quand même. et là, en fait, je me suis dit, mais vraiment, ils sont super ces gens-là de me faire des vidéos, de prendre du temps. Alors, oui, c'est pas beaucoup de temps, mais par exemple, le compte de Boudarbala, ouais. Il m'a dit, Fred, j'ai pas de caméra, c'est compliqué, tout ça. Et il m'a dit, ah, j'en ai trouvé une, il est dans sa voiture, il m'a fait ça vite fait dans la voiture, tu vois.
C'est cool.
Mais tu vois, c'est super cool. Ouais. Donc les mecs, ils sont là, ils nous aident, ils pensent pas qu'à eux, et ça me fait vraiment plaisir.
Bon bah cool. Je suis ravi de l'entendre et je suis ravi de participer aussi à ma manière, tu vois.
Bah, quelque part, moi, ça me fait plaisir. Grâce à toi, tu vois, on aura aussi un peu de personnes qui parlent de ça, tu vois. Et donc c'est cool, quoi.
Ouais, mais trop bien, trop bien. Et où est-ce que t'as envie de l'amener cet assaut, tu vois
Mais en fait, on a un but, nous, hein, depuis le début. On l'a pas créé pour rien. Nous, on aimerait créer notre structure, c'est-à-dire qu'on soit capable d'accueillir des adultes.
Ouais.
Parce que c'est vrai que Brigitte Macron a bien travaillé, beaucoup travaillé pour les jeunes, les enfants autistes. Okay. Vraiment, faut reconnaître ça. Moi, je fais pas de politique du tout. Hein, là, vraiment, je parle de la personne qui a fait le taf pour les jeunes autistes. Et par contre, voilà, je trouve que les adultes autistes sont un peu délaissés. Il manque de structure et c'est un peu compliqué. Il y a un amendement qui s'appelle l'amendement Creton qui te permet de rester un peu plus longtemps dans les IME. Sauf qu'en théorie, à 20 ans, tu dois dégager les IME. Et après c'est bouché parce que c'est très compliqué et notre objectif c'est de créer une structure. Alors on en est loin, hein. Il faudrait qu'on fasse peut-être 10 fois plus de chiffre d'affaires que ce qu'on fait actuellement, mais c'est l'ambition.
Ouais.
Et on a aussi des partenaires incroyables qui nous suivent et qui nous donnent de l'argent, qui nous permettent de faire des choses. Vraiment on est super fiers de ça, tu vois.
Ouais. Non, et puis tu peux trouver aussi d'autres modèles, tu vois. Je pense que si les IME chassent tout le monde à 20 ans, c'est que...
Ils les gardent, par obligation. À cause de à cause ou grâce à l'amendement Creton. Parce que c'est vrai que l'amendement Creton, ça te permet, quand tu n'as pas de solution après, de pouvoir rester un peu plus longtemps. Sauf que c'est bien et c'est pas bien. Parce que c'est bien d'un côté. Parce que c'est génial qu'ils aient quand même une structure et tant mieux. Et je pense que les parents qui ont des enfants des jeunes adultes même plus âgés sont bien contents d'avoir un endroit. Sauf qu'à un moment, tu te dis, est-ce que ça ralentit pas finalement la possibilité d'aller ailleurs aussi, tu vois, en disant on est moins pressé parce qu'il y a cet amendement. Donc tu vois, c'est un peu à double tranchant comme.
Ouais, il y a pas de vraie structure dédiée, tu vois.
Il y a des structures, mais elles sont pleines. Et malheureusement, parfois, t'en viens à espérer que quelqu'un décède pour pouvoir prendre sa place, parce que les places, elles sont en nombre limité.
Ouais.
Donc, à un moment, j'imagine des parents qui sont en train d'espérer que quelqu'un décède, un jeune, une personne autiste, ou en tous les cas, handicap mental, décède pour pouvoir prendre la place. Tu te rends compte de cette situation? On est en France,
dingue.
En 2021.
Ouais, c'est dingue.
Et il y a des parents qui prient quasiment pour se dire, j'aimerais tellement que mon fils ou ma fille, surtout mon fils, parce qu'en général, les enfants autistes sont plus des garçons, mais bon, mon fils ou ma fille trouve un endroit et il n'y a pas d'endroit. Et je suis obligé d'espérer que quelqu'un décède. Enfin, t'imagines? C'est affreux.
Ah ouais. C'est retournant, quoi. C'est.
Mais moi, moi le premier.
Il n'y a pas d'autres solutions, tu vois.
Mais concrètement, moi le premier, hein, avant de trouver l'endroit où ira Enzo, Je m'en cache pas. Hein. Moi aussi, j'ai espéré malheureusement que ouais. qu'une place se libère, et on sait ce que ça veut dire, hein, qu'une place se libère, tout simplement.
Ouais. Ouais. Et comment ça se fait qu'on manque à tel point de structure pour justement pour ces jeunes adultes, tu vois?
Mais je pense que on est en retard. Encore une fois, on est très en retard en France et qu'on n'a pas mis les moyens. Ça coûte cher. Enfin, tout s'entend, hein. Quelque part, quand on n'est pas dans cette situation, quand on n'est pas touché, tout s'entend, hein. Sauf que quand t'es touché et que t'as la problématique et qu'à la maison t'as ton fils qui se tape la tête contre les murs et que tu sais pas quoi faire, ben le questionnement est différent. Hein.
Ouais. Ok. Et il y a quand même des moments de bonheur, tu vois, dans tout ça.
Oui, ben bien sûr, bien sûr. Ben déjà, je suis un meilleur homme grâce à Enzo. C'est un enfant qui m'a transformé en meilleure personne. Ben, tu vois, je te parlais de pas être matérialiste, je suis plus. En fait, avant, j'étais comme tout n'importe quel imbécile qui avait envie de changer de téléphone tout le temps. Hein. Regarde mon téléphone, franchement, s'il te fait rêver, tu me le dis. Hein. Tu vois, je m'en fous complètement. J'ai pas de monde, y a rien qui m'importe vraiment en termes de matériel. J'ai envie d'être heureux, j'ai envie que mon fils soit heureux, j'ai envie de faire des choses importantes pour lui. Et le reste, voilà, tenter des expériences dans la vie, ça m'a toujours plu, je continue, mais voilà, quoi.
Ouais, ok.
Donc ça m'a rendu meilleure personne, je pense. Tu vois, tu parlais de te la raconter à un moment dans la vie. Oui, sans doute que mais là, je me raconte plus. Je sais ce que je fais. Je sais où j'ai envie d'aller, et je sais ce que je fais. Et ça change la façon d'être.
Ouais. Ça donne beaucoup de force d'être dans une situation, tu vois, aussi particulière, tu vois, je sais pas, ça crée une espèce de colère ou une rage de vaincre ou une rage de réussir.
Moi, deuxième élan. Moi, j'avais vraiment le premier élan qui me disait fais plus rien, couche-toi, reste toute la journée parce que j'étais en dépression. J'ai un énorme dépressif.
Ça a duré combien de temps?
Ça s'est arrêté il y a 2 minutes, je crois, juste avant qu'on commence. Non, en fait, concrètement, je suis dépressif naturellement. Hein. Non, si, c'est vrai. Moi, je suis juste. J'aime à dire ça et les gens sont toujours choqués. En fait, moi, le seul moment où je suis vraiment heureux, c'est quand je fais des camps de basket, en fait. C'est le seul moment où vraiment je suis heureux, où je suis en paix avec moi-même et je sais que
c'est
belong to this place. Tu vois ce que disent les Américains? Eh ben, c'est exactement, c'est là que je dois être, quoi.
T'aurais dû me dire, on se serait mis dans un...
Non, mais, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais je suis prêt à faire n'importe quoi pour ça, tu vois. Si on me dit, Fred, il faut que t'ailles, j'ai fait des allers-retours sur Nice pour récolter des fonds, etc., mais ça me pose pas de problème. En fait, quand je fais ça, je suis content. Parce que j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile. Le reste, ben, c'est juste, c'est pas beau ce que je dis, mais c'est un peu alimentaire, quoi.
Ouais. Mais t'as l'air aussi de bien t'éclater, tu vois, sur tout ce que tu fais.
Ah non, mais moi, sinon je le ferais pas. J'ai la chance de pouvoir choisir ce que je fais quand même. Donc, forcément, oui, bien sûr que je m'éclate. J'ai une chance incroyable. T'imagines, je suis payé pour critiquer les autres. Ça va, il y a pire comme taf. Mais non, je vais pas à la mine, tu vois. Moi, je viens de Lorraine, hein. Mais dans ma famille, il y a quand même eu des mineurs et tout ça, donc. Concrètement, mon père a travaillé à l'usine, etc. Donc, tu vois, nous, on sait un peu ce que c'est quand même que ce soit dur dans la vie, tu vois. Mais moi, je me rends compte que moi, j'ai une chance incroyable et je fais des choses qui me plaisent et j'ose des choses, etc. Mais la chose qui me rend heureux, tu parles d'être vraiment heureux et être en paix avec moi-même, c'est les camps de basket, les tournois 3-3, là, enfin tout ce qu'on organise par le Big Camp.
Ok. Et tu te vois comment dans 10 ans?
Bonne question. Alors j'espère déjà que le Big Camp aura réussi à grandir suffisamment pour créer cette structure dont on rêve. Je me vois un peu délégué un petit peu parce que j'ai plein de jeunes prometteurs. Je passe un petit coucou à Steven qui sera mon directeur de camp à la Baule par exemple, parce que j'essaie de mettre des jeunes aussi à un moment. Moi, je vais être sur place tout le temps parce que c'est normal que je sois là, mais je mets des jeunes parce que concrètement, c'est avec des jeunes qui veulent parler, c'est eux qui vont être le futur et je veux que cette association survivent à Célia et à moi, parce que c'est ça qui est intéressant. Jouer comme ça, ça sert à rien. Nous, on veut se projeter dans le futur, donc je me vois plus tranquille, plus apaisé, j'espère, et que mon fils soit bien surtout.
Ok. Et il y a des choses qui te font peur sur ce projet
par rapport au Big Camp, tu veux dire?
Ouais.
Bien sûr,
dans la vie, qu'est-ce qui te fait peur?
À un moment, moi, je suis un gros trouillard. Je suis un immense trouillard. En fait, avant d'avoir Enzo, je n'avais peur de rien. D'accord? Et je pensais que j'étais intouchable. Et depuis que j'ai eu ce grain de sable dans la machine, j'ai peur de tout. Maintenant, quand je conduis, je fais attention 40 fois plus qu'avant. Tu vois, en fait, avant, je me disais toujours, ça peut arriver qu'aux autres. Sauf que maintenant, je sais que les autres, ça peut être moi.
Ouais.
Et ça change juste ta façon de penser.
Du coup, tu fais plus attention à toi?
Je fais plus attention à moi. Alors, certains te diront que non, ouais. Que je vais pas suffisamment chez le docteur, parce que j'ai pas le temps. Mais en tous les cas, je fais plus attention aux autres, déjà, et c'est plus important.
Ok, ça marche. Et est-ce que, tu vois, t'as un mantra dans la vie, tu vois, ou une phrase que tu te répètes pour aller mieux, pour te motiver, pour continuer?
Franchement, non, non, mais c'est vrai que c'est une phrase que je te disais que tout à l'heure, une phrase que j'utilise beaucoup, c'est quand on me demande comment ça va. Déjà, la plupart des gens s'en foutent de la réponse, et je leur dis juste que là, ça va. Alors, il y a certains qui s'en foutent vraiment et qui n'écoutent pas, et d'autres qui disent, ah bon, mais il y a quelque chose, et là, on commence à discuter. Et ça, c'est les gens qui sont intéressants.
Ok.
Donc, c'est pas un mantra, mais ça me permet de faire le tri entre les gens qui s'intéressent vraiment à toi et les gens qui posent la question par politesse.
Ouais. Qu'est-ce que j'ai répondu, moi?
Tu m'as posé la question. Donc ça va. T'es pas viré.
Et pourquoi t'as eu envie d'écrire un bouquin d'ailleurs?
Ben parce que en fait les gens vont encore croire que j'ai vraiment envie de faire une connerie de plus. Non, je crois que c'est une thérapie. En fait, comme je te disais, j'ai une blessure qui est pas complètement refermée.
Ouais.
Je suis pas toujours très bien. Je suis toujours dépressif. Il y a toujours des moments très noirs dans ma vie et dans ma tête. Et j'avais envie de le coucher sur du papier. Et je n'avais pas ses compétences. Et Geoffrey Charpie, avec qui on l'a écrit, est un ami à moi. Et je savais qu'il était capable de retranscrire ce que j'allais lui dire. De la façon dont j'aurais pu le penser. Enfin,
ouais.
Tu vois, on l'a fait vraiment à quatre mains, j'allais dire. Et parce qu'il est talentueux d'une part, et surtout parce que c'est un ami. Et il y a des choses que je pouvais pas dire à n'importe qui. J'ai relu, enfin tu vois, on l'a fini, enfin il l'a fini il y a pas longtemps. Je l'ai relu et tu vois, j'ai eu la larme à l'œil. Donc je me dis que mon histoire que je connais, il arrive à me faire pleurer. Je me dis que voilà, il est quand même assez talentueux, quoi.
Ça sort quand?
Je pense en avril, je pense aux éditions Amphora. C'est vrai que eux aussi ils ont été top avec nous. Ils nous ont beaucoup aidé parce que concrètement moi c'était un projet compliqué quand même parce que il fallait que j'écrive sur moi. Commercialement pour eux, ça va pas être leur best-seller clairement. Même si j'espère que ça se vende, hein, évidemment, mais c'est pas mon but premier. Donc j'avoue que eux, ils ont été top, ils nous ont accompagnés, ils ont été là pour nous, ils nous ont traités comme on le voulait, c'est-à-dire que nous, on voulait être traités à la bonne franquette, tu vois. Donc nous, on est comme ça, Geoffrey et moi, et on voulait que ce soit à la bonne franquette, c'était à la bonne franquette, c'était dans l'ambiance qu'on voulait, et vraiment, les éditions Amphora, c'est vraiment top.
Ouais, mais cool, mais beaucoup de bouquins dans le sport qui passent par ces éditions.
Ouais, mais tu vois, en fait, ce qui me surprend à chaque fois, c'est qu'ils ont beaucoup de bouquins, et effectivement, mais ils les traitent tous comme s'ils étaient uniques, en fait. Et ça, c'est un vrai gage de sécurité, j'allais dire, d'une part, mais surtout, ça fait plaisir, quoi, concrètement.
Ok, j'arrive un peu à la fin de mes questions, et je me demandais s'il y avait une question que tu aurais eu envie que je te pose.
Je sais pas, moi je pensais que tu allais me poser une question sur mon collier, mais
Ah oui, bah alors du coup, petit contexte, d'où vient ce collier? Tu vas jouer, donc tu joues en ce moment pour un film. Je sais pas s'il faut rester secret.
Ouais, il faut rester un peu secret sur le film, mais je peux pas trop en dire, mais ouais, je commence à tourner d'ici peu là sur un film. On m'a appelé pour faire un casting. Parce que je rêvais de faire du cinéma depuis longtemps. Hein. Concrètement, c'est un truc qui moi j'aime bien. Toucher à tout, essayer des choses, prendre des risques. Et ça faisait longtemps que j'en rêvais. Et là, on m'a appelé en me disant, il y a un casting, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, ok. Donc, c'était à Paris, j'étais à Limoges, je me suis tapé 800 bornes pour une heure de casting, où on m'a demandé de jouer la colère, la tristesse, la joie, etc. Et donc, à la fin, ils me disent, le classique, on te rappellera, tu vois. J'ai dit, ok, c'est cool. Mais c'est pas grave, l'expérience était super, je suis content déjà. Et donc, je les appelle juste avant de commenter l'équipe de France de basket féminine. Je leur dis, voilà, j'ai un problème. J'ai ma barbe, vous m'avez demandé de laisser pousser, qui est dégueulasse. Et je commente, est-ce que je peux la couper? Parce que j'imagine que c'est mort, tu vois. Elle dit, non, il veut te voir demain, le réalisateur. Je suis sérieux. Donc, je suis allé le lendemain, et en fait, ils m'ont proposé le rôle, en fait.
Ok. Ouais, ouais.
Donc voilà, je vais jouer au cinéma, ce que je ne pensais pas.
C'est au cinéma, du coup.
C'est au cinéma, ouais.
On a un premier petit indice.
Ouais, c'est au cinéma, c'est un film qui est intéressant.
Français?
Français, bah oui.
Ok.
Français,
ouais. Plutôt drame, plutôt comédie, on sait pas trop.
Plutôt drame.
Ok, ouais. ça marche. Et tu sais quand, je sais pas, on a un horizon de temps à partir du moment où ça sort?
Honnêtement, non, je sais pas, mais je sais qu'il y aura, comme ça se tourne en deux sessions, une session en hiver, une session en été. Donc je pense qu'en fin d'année, au mieux. Au mieux, fin d'année.
Fin d'année,
fin d'année 2022.
2022, ouais, 2022. Ok. C'est ça. Il va falloir être patient ouais, avant que ça sorte.
Mais bon, moi, je...
C'est ça le monde du cinéma aussi.
Je peux te dire que je fais pas le malin, hein, là-bas. Parce que je connais personne. Tout, c'est tous des vrais acteurs. Et m'ont tous... Enfin, tu sais, ils se regardent tous en disant « T'as joué dans quoi ?» Et moi, ils me demandent. Mais je dis « Moi, j'ai pas joué, en fait. J'ai jamais joué. » Enfin, si, j'ai fait le con, hein, parfois, devant la télé à dire des conneries, mais c'est à peu près tout, quoi. Donc, j'avoue que j'ai un peu de pression.
Et t'as... Bah, c'est un nouveau challenge, mais... Tu sens qu'il y a de la bienveillance, tu vois, par rapport à ça, tu vois, si t'es avec des pros, faut quand même être pro, tu vois, le jour J, toi t'as, je sais pas, si on t'a jamais appris, il y a des gens qui t'apprennent, il y a des gens qui...
Il y a des mecs qui sont incroyables, mais vraiment, mais le réalisateur est incroyable, il est gentil, il est bienveillant, etc., tous ses assistants aussi, et les acteurs sont tous venus me parler en me disant, ouais, on a appris que c'était ta première fois, on est là pour t'aider. Il y a une dame qui joue ma femme dans le film et qui m'a dit, on ira boire un coup avant pour se caler, pour qu'on ait un peu de complicité à l'écran, etc. Donc, tu vois, vraiment, je n'ai rencontré pour l'instant que de la bienveillance. Même si, déjà, quand je suis arrivé à 2m17, un peu costaud, tu vois, ils se sont dit, c'est qui ce mec? mais après, vraiment, j'ai senti que de la bienveillance.
Ok. Bon, et du coup, voilà, on t'a demandé de te raser et tu as un collier.
J'ai un collier. Alors, franchement, c'est affreux. Mais, on m'a dit que je ressemblais à prof dans des sept nains. On m'a dit plein de trucs comme ça, tu vois.
Ouais, un peu, ouais, j'avoue. Ouais. Mais ça me fait penser qu'il faut que j'aille me raser parce que là, ça commence à...
Ouais, je confirme, quoi, ça commence à être long, un petit peu.
Ouais, ouais, puis là, ça commence à devenir très roux en plus. Plus c'est long, plus c'est roux.
Ouais, je comprends.
Et du coup,
moi, j'ai du roux. Ouais, moi aussi, ouais. Moi, j'ai un peu toutes les couleurs. Moi, la nana qui m'a coupé, elle m'a dit, j'ai du mal à voir les notions de distance avec ça parce qu'il y a tellement de couleurs différentes. Merci beaucoup, ça m'aide pas.
Mais ouais, moi, il va falloir que j'aille passer à la tondeuse très vite. La toute dernière question que je pose, c'est de savoir, c'est un peu comme un passage de flambeau, mais c'est plutôt un passage de micro. C'est qui les personnalités que tu me recommandes d'aller interviewer? Pour parler de tout, de rien, de la vie, de raconter des belles histoires et de pouvoir.
Moi, il me vient deux personnes comme ça. Alors, ouais. Je sais pas si j'ai le droit d'en citer deux, je sais pas.
Bien sûr.
Moi, je pense à Victoria Rava.
Ok.
Parce que Victoria Rava, c'est une joueuse de volley incroyable, qui a une carrière incroyable, qui a un accent incroyable aussi.
Ok.
Et qui pourra te raconter plein de choses sur les calendriers de sur le volet, parce qu'il y a eu une époque où il faisait des calendriers qui étaient très jolis d'ailleurs, elle m'en a donné quelques-uns. Mais voilà, c'est une vraie personnalité du sport et quelqu'un de vraiment très intéressant. Et ensuite Marinette Pichon.
Okay.
Marinette Pichon, la joueuse qui a marqué le plus de buts en équipe de France, je crois, de foot.
Bien sûr.
Qui a une vie aussi personnelle à raconter. Je veux pas rentrer dans les détails parce que ça c'est son rôle, mais elle a des complications dans sa vie personnel aussi, qui sont à la fois intéressantes et qui permettront de comprendre la personne incroyable qu'elle est.
Ouais. Ok, bah écoute, j'ai noté ça, je me permettrai de leur envoyer un petit message très vite. Je voulais vraiment sincèrement te remercier, tu vois, là tu parles de Marinette Pichon et de à quel point tu t'es livré et à quel point on peut se rendre compte que les athlètes de haut niveau peuvent être vulnérables aussi, tu vois, et aussi traverser des moments durs. Et je pense que, je sais pas si tu t'en rends compte, mais quand on regarde les gens derrière son poste de télé ou quand on les entend à la radio, tu vois, on peut vite avoir tendance à imaginer que tout est beau, que tout est facile, qu'il y a un monde, tu vois, presque parfait, tu vois, dans lequel il est. Et le fait que tu t'ouvres autant, tu vois, je pense que ça remet tout le monde sur terre et ça permet de se rendre compte qu'on est tous des humains, en fait. Qu'il n'y a pas de... T'as mentionné Koh-Lanta, mais il n'y a pas de totem de l'immunité, tu vois.
Non, je suis d'accord. Mais tu sais, en fait, j'ai la double problématique. Moi, j'ai le fait d'être un ancien sportif au niveau et de faire 2m17 aussi. Et t'as l'impression, ouais, quand t'as un colosse, c'est l'appellation qu'on m'a donnée, hein, dans le film, justement. un colosse comme ça, on a l'impression que, ben, il est intouchable. Et en plus, s'il est sportif au niveau, on se dit, bah, le mec, ouais, tout glisse sur lui, sauf que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, et que mon cœur existe autant que le cœur des autres, que, voilà, c'est ça. Les autres ont le même cœur que moi.
C'est vrai, ouais, effectivement, t'as cette double,
En plus, j'ai une grosse voix, alors imagine la galère, quoi.
On doit se dire, ah, lui, c'est un cœur de pierre, lui,
c'est ça.
Il doit jamais rien de lui arriver, il doit pas cogiter, il doit avoir pleine confiance en lui, et...
Sauf que c'est exactement le contraire.
On est tous des êtres humains, ouais. Et, mais tu vois, je trouve ça assez admirable de se livrer autant, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas fait. Il y a beaucoup de d'athlètes de niveau qu'on morflé, qu'on eu des, enfin tu vois, c'est des êtres humains avant tout. Donc il y a pas de raison qu'ils aient pas vécu les mêmes choses, et il y en a beaucoup qu'on parle pas, tu vois, qui ont du mal à s'ouvrir.
C'est un peu tabou, hein, dans le sport. Dans le sport, c'est un peu tabou, parce que c'est un peu révéler une fragilité, et quand on est fragile dans le sport, c'est-à-dire qu'on n'est pas compétent et qu'on n'est pas capable d'aller très haut.
Ouais.
Et en fait, les gens ne comprennent pas qu'on puisse être très fragile d'un côté et très fort sur le terrain, en fait.
Ouais. Tu penses que c'est en train d'évoluer, ça?
Bon, encore une fois, la préparation mentale aide beaucoup aussi, parce que ils peuvent plus échanger par rapport à ça. Et les langues se délient un petit peu aussi, hein. On commence à de plus en plus en parler, et je pense que c'est important aussi d'en parler, parce que plus les athlètes, les grands athlètes, je parle des LeBron James, des joueuses de tennis chinoises qui, j'espère, va bien, commencent à en parler, qui commencent à exprimer justement le fait que, ben voilà, ce n'est pas qu'une carapace, ben ça va aider aussi les générations futures.
Ouais, c'est ça, c'est
la libération de la parole, c'est important.
Ouais, exactement, ouais. Ouais, et puis, on oublie que ouais, c'est un métier, mais qu'il y a aussi, tu peux rentrer chez toi et que chez soi, on est toujours quelqu'un de différent. Un peu.
Bien sûr, mais tu sais, c'est comme l'homosexualité dans le sport. Hein.
Ouais.
C'était quelque chose qui était absolument tabou. Moi, j'admire les gens qui ont pu sortir du placard et qui l'ont exprimé, parce que.
T'as vu ce reportage là récemment?
Bien sûr, évidemment. Et je me dis, franchement, c'est dur de sortir, mais qu'est-ce que vous faites du bien aux générations futures surtout?
Ouais.
Qu'est-ce que vous faites du bien? Vous vous rendez pas compte? En fait, j'imagine qu'ils l'appréhendent, mais je pense qu'ils se rendent pas compte de la portée que ça a vraiment. Je pense que c'est tellement incroyable de dire, ah ouais, moi aussi je peux parler parce que quelqu'un d'autre a parlé. Bah, de la même façon sur la fragilité, en fait. Tous ces tabous, il faut les briser les uns après les autres, parce que c'est des conneries. On est tous des êtres humains, tu l'as bien dit.
Ouais. Bon, on est tous uniques, et c'est pas parce qu'effectivement on sort un petit peu du moule, soit par sa sexualité, soit par sa psychologie, sa mentalité, qu'on peut ne pas performer, quoi. En fait, c'est ça qui est important de retenir.
Et peut-être que ça peut t'aider, même, justement.
Bien sûr.
C'est le fait d'être différent, ça peut t'aider peut-être à être meilleur encore.
Ouais, bien sûr.
Faut mais servir c'est... de ça comme une force, en fait.
Ouais. T'as besoin de décrocher?
Non, pas du tout. Non, je vois que ça s'allume depuis tout à l'heure, alors je...
mais je suis entièrement, je suis tout à fait d'accord. Et tu vois, il y a même eu des tests que j'ai vu là récemment, alors j'ai oublié les sources, mais elles existent.
Et si tu me le dis, je vais te croire sur parole.
Mais que tu vois, effectivement, bah tu vois, parmi les athlètes de haut niveau, il fallait, c'est quand même des types de personnalités assez parti, enfin ça couvre pas tout le spectre de toutes les personnalités qui existent.
Non.
Parce qu'il faut avoir un peu d'ego, il faut avoir un peu de goût pour la compétition, il faut avoir un peu de goût pour
pas trop.
Se faire mal, mais pas trop.
C'est drôle, parce que en fait, tu vois, quand je me faisais soigner, en fait, mon docteur me disait toujours, en fait, t'es trop dans la compétition.
Ouais.
En fait, on sent vraiment ton métier, que vraiment c'est la compétition ton truc.
Ouais.
Et en fait, moi, je suis compétitif surtout. En fait, on joue aux cartes, je veux t'éclater, quoi. Mais vraiment, et c'est affreux, en fait, comme sentiment. Et ça me fait rire que tu me dises ça, parce que c'est vrai qu'on est trop dans ça et dans l'ego aussi. On croit toujours qu'on est les meilleurs.
Ouais. Non, mais tu vois, typiquement, ce type de profil qui adore la compétition, ça peut être des gens, effectivement, qui peuvent finalement avoir tendance à ne vivre que par la compétition, et du coup, ne jamais savoir. Et la compétition, c'est le rapport aux autres. Et si du coup, si tu te retrouves tout seul, qu'est-ce que tu vaux, ou quel est le sens de ta vie, tu vois?
Mais tu sais que c'est un vrai questionnement, ça. Ça, c'est un vrai questionnement, parce que concrètement, je pense que le fait d'avoir Enzo, ça a accéléré ce questionnement, en fait. Mais c'est un questionnement que j'aurais eu quoi qu'il arrive.
Ouais.
Parce que effectivement, quand t'as plus la compétition, quand t'es plus contre les autres et que tu te retrouves seul face à toi-même, bah t'es qui finalement? Tu te connais pas. Tu te connais que à travers la compétition.
Mmh.
Et qu'est-ce que tu représentes? Qu'est-ce que tu vaux comme mec? Parce que tu sais pas ce que tu vaux. Tu sais ce que tu vaux dans, comme pièce d'une équipe en plus, dans un sport collectif. Mais c'est tout ce que tu sais, en fait.
Ouais.
Donc il y a beaucoup de questionnements à la fin de la carrière, c'est sûr.
Ouais. Mais écoute, merci infiniment en tout cas.
Merci à toi, c'était cool. En plus, tu m'as fait découvrir des endroits magnifiques. Donc.
c'est vrai, c'est pas mal. On va continuer la visite. Je vais te montrer si t'as 5 minutes.
Ouais.
Mais écoute, merci infiniment, Fred. J'ai passé un très bon moment, parce que je me pose ces questions aussi, tu vois. Et je suis un jeune papa. Ça a peut-être pas intéressé les auditeurs, donc on en parlera peut-être en off. Mais je me pose aussi pas mal de questions, et je vis à travers beaucoup la compétition aussi. Et du coup, Bah moi ça m'apporte beaucoup de réponses. Donc j'espère que ça apportera beaucoup de réponses à d'autres. Et je le pense parce que beaucoup d'auditeurs sont des compétiteurs, sont des sportifs et sont tous des êtres humains. Et ça montre qu'on peut être vulnérable, voilà.
Ouais, exactement. Et si un mec de 2,17 kg est vulnérable, on dira que ça grésille juste au moment, c'est manque de peau pour le poids.
Médaille olympique avec tout ça. Eh ben écoute, merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi.
Et puis à très vite.
À très vite.
Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.